études longues, universitaires, un déclassement lors de leur arrivée en France. Et donc je vais ouvrir cette table ronde sur le thème, comme on est à l'université, le thème des étudiants et étudiantes étrangères, notamment extra-communautaires, de leurs droits, des conditions de leur poursuite d'études ou reprise d'études en France. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Claire Despierre qui s'occupe du DU Passerelle étudiant en exil à l'Université de Bourgogne et qui parlera du fonctionnement concret de cette formation. Alors déjà, un petit élément, c'est que le 25 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a censuré l'ensemble des dispositions concernant les étudiantes et étudiants étrangères. Alors peut-être par facilité, j'utiliserai le féminin générique par la suite, donc je parlerai d'étudiante pour visibiliser le fait qu'il y a aussi des femmes, mais ça veut dire étudiant et étudiante. Donc ces dispositions qui concernent les étudiantes étrangères dans la loi immigration ont été censurés en fait sur le critère que c'était des cavaliers législatifs, c'est-à-dire que c'est pas pour des raisons de fond qu'elles ont été censurées, mais seulement pour des questions de forme, parce qu'elles ne cadraient pas avec l'objectif de la loi. Donc ça soulève des inquiétudes sur la possibilité que ça laisse par la suite à l'introduction de ces principes qui étaient initialement dans le projet de loi, le principe de la caution retour, l'augmentation des frais d'inscription, l'obligation de prouver le caractère réel et sérieux de ces études, etc. Donc voilà, il y a un soulagement qui est aussi laisse vite place à de l'inquiétude là-dessus. Ensuite, je voulais donner quelques éléments de cadrage un peu plus large sur la situation des étudiantes extra-communautaires en France. En fait, on a une forme de paradoxe dans les discours gouvernementaux sur ces questions qui, d'un côté, se fixent pour objectif de faire augmenter le nombre d'étudiantes étrangères. Par exemple, en 2018, le Premier ministre vise le chiffre de 500 000 à l'horizon de 2027, soit une augmentation de 50% en 10 ans. Donc d'un côté, on a ce discours, cet affichage de vouloir faire augmenter le nombre d'étudiantes étrangères, et en même temps, des mesures restrictives qui réduisent l'accès de fait aux études supérieures en France. Pour ça, je vais donner quelques éléments rapides. Je me fonde sur l'article qui s'appelle « Bienvenue aux riches étrangers » publié dans la revue Plein Droit par Hugo Bréant et Hicham Jamil. Donc notamment, ça concerne le dispositif Bienvenue en France, très mal nommé Bienvenue en France, qui introduit des frais de scolarité différenciés pour les étudiantes étrangères extra-communautaires. Donc c'est depuis la rentrée 2019-2020, avec des frais d'inscription qui ont explosé puisqu'ils ont été multipliés par 16. On est à 2770 euros pour une inscription en licence et 3770 euros pour une inscription en master. Et donc ça met fin au principe d'alignement des frais d'inscription, quelle que soit la nationalité qui avait été instaurée dès 1914 en France. Par ailleurs, il y a des conditions de ressources pour pouvoir faire des études, enfin, qui sont uniquement pour les étudiantes extra-communautaires, des conditions de ressources qui ont été introduites en 1979. Et c'est-à-dire qu'il faut justifier d'un certain niveau de revenus et de ressources pour pouvoir avoir un visa étudiant. Et ce seuil a été augmenté en 2011 avec la circulaire Guéant. Par ailleurs, on a un dispositif qui interdit aux étudiantes de travailler pendant leurs études, ce qui complique aussi la poursuite. Par ailleurs, pour pouvoir faire ses études en France, donc il y a une procédure qui s'appelle, via une plateforme qui s'appelle Campus France, qui est très lourde, qui nécessite des frais de dossier importants, qui nécessite de fournir des attestations d'hébergement justifiées, donc là encore d'une situation financière stable. Et donc ça aussi, ça crée des inégalités très fortes entre les personnes qui souhaitent venir faire leurs études en France. Et puis c'est tout un tas de logiques discriminatoires aussi dans les guides. Enfin, au-delà des règles juridiques, il y a des mesures, des décisions discrétionnaires qui sont prises par les agents qui gèrent ces dossiers. Et c'est donc tout un ensemble de logiques discriminatoires qui touchent en particulier les personnes originaires du continent africain, qui représentent la moitié du total de mobilité étudiante en direction de la France. Voilà, donc c'était pour le petit cadrage. Je vais donc faire une transition pour parler de la question donc, plus spécifique des demandeurs, demandeuses d'asile et des personnes réfugiées bénéficiant, enfin, plus largement bénéficiant de la protection internationale et de comment leur reprise d'études est organisée, notamment à l'Université de Bourgogne. Peut-être dire que le DU Passerelle dont s'occupe Claire Despierres s'inscrit donc dans. Enfin, il en existe une quarantaine en France. Ces DU sont structurés par un réseau de l'association MENS, MENS, le réseau des établissements.
Dans l'enseignement national supérieur.
Ok, donc c'est un réseau d'établissements engagés pour l'accueil des étudiants en exil. Et je voulais rappeler deux points que je trouvais hyper intéressants que rappelle ce réseau. D'abord que les universités françaises, donc dans leur statut même, garantissent un accueil sans condition pour tous et toutes, peu importe le statut administratif. Et ça, c'est quelque chose qui est écrit dans une circulaire interministérielle qui date de 2002. Donc toute demande d'inscription doit être examinée au fond et de manière circonstanciée. La situation du demandeur devant être prise en compte, nonobstant les conditions d'entrée en France. Ça veut dire que une personne en situation irrégulière a tout à fait le droit de s'inscrire à l'université. Ce n'est pas du ressort de l'université de vérifier les conditions de régularité de séjour. Ça, c'est le rôle de la préfecture. Donc ça, c'est hyper important aussi de le rappeler, voilà, que c'est pas le rôle des universités de faire ça. Et le deuxième point que je trouve intéressant, c'est que le MENS ainsi que d'autres réseaux et associations et syndicats ont créé une demande d'admission adaptée qui existe dans certaines universités. C'est un dossier unique de candidature dérogatoire destiné à toute personne exilée pour une première candidature dans l'enseignement supérieur, en licence ou en master. Et c'est une procédure de candidature qui est plus flexible que les plateformes type Parcoursup Mon Master, notamment en termes de date de candidature, de documents demandés, puisqu'il y a des difficultés parfois à pouvoir fournir des justificatifs des études antérieures ou de la scolarité antérieure. Et c'est un dispositif qui, pour l'instant, a été mis en place dans 4 universités, Sorbonne Université, Université Strasbourg, Université Littorale Côte d'Opale et Université de Saclay. Et je trouvais ça intéressant de le pointer, de dire qu'il y a des choses qui pourraient être inspirantes pour la situation ici à l'Université de Bourgogne. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc je laisse la parole à Claire.
Donc, oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis enseignante ici à l'Université de Bourgogne. Je travaille au département sciences du langage, à l'UFR de lettres et philo. Et peut-être pour parler un peu de ce début passerelle étudiant en exil, je vais faire un tout petit peu d'historique, parce que ça permet peut-être de comprendre comment ça s'est mis en place et quel est son objectif et comment ça a évolué en 8 ans. Donc c'est parti de la base, on va dire, puisque en 2015, suite à la crise syrienne, donc il y a eu énormément de personnes qui ont quitté la Syrie, qui étaient des personnes soit qui avaient un haut niveau d'études, des professions qualifiées, toute la classe moyenne, tous les médecins, tous les avocats, etc., mais aussi beaucoup de jeunes qui avaient participé au mouvement, aux manifestations, etc., donc qui ont dû interrompre leurs études. Donc il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées de Syrie et d'Irak d'ailleurs à peu près au même moment. Et il y a des personnes qui travaillent dans les universités, donc des enseignants, des personnels administratifs, des étudiants, qui ont commencé à se poser la question, à dire mais que fait l'université pour ces personnes-là qui, de par leur niveau académique, de par leur aspiration à finir leurs études ou leur niveau déjà acquis, ont leur place en fait dans l'université. Donc il y a un mouvement qui s'est mis en place, un collectif à l'époque qui s'est mis en place et qui a commencé à organiser des réunions, regrouper les personnes des différentes universités et interpeller les établissements, donc les présidents, les équipes de présidence, etc. Ce qui s'est passé aussi à Dijon, donc ça c'était en 2015-2016. Donc, c'est comme ça qu'un petit groupe de personnes s'est rencontré autour de cette problématique et que j'ai été associée à ce projet, puisqu'il se trouve qu'en tant qu'enseignante en sciences du langage, nous, on est aussi les personnes qui formons les profs de français langue étrangère. Donc, ça fait partie de notre périmètre, on peut dire, scientifique et d'enseignement, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué ce groupe et qu'on a mis en place, donc, dès l'année suivante, donc en 2016-17, un premier dispositif totalement bricolé, expérimental et sans aucun moyen, c'est-à-dire sans un centime, avec le service, le pôle des relations internationales et puis quelques enseignants et voilà, les BIATS qui avaient envie de s'impliquer là-dedans. Et donc en 2016-17, on a pu accueillir 45 personnes qui venaient essentiellement de Syrie et d'Irak. Et qui venait d'arriver, ne parlait pas français, et effectivement, dans cette perspective de lutter, c'est vraiment un point essentiel contre ce phénomène de déclassement, puisque ce sont des personnes qui. Il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait des étudiants, il y avait des instits, il y avait des profs, il y avait un peu de tous les métiers, des ingénieurs. Et donc, à qui ne s'offrait peut-être pour seule perspective à l'époque que d'aller faire des trous dans les routes ou voilà, de faire des ménages. Donc, on a eu ces 45 étudiants pendant une année. On a travaillé qu'avec des enseignants bénévoles. Donc, on a constitué une équipe de bénévoles, une vingtaine de personnes bénévoles. Et on a monté ce cours pendant une année avec des cours tous les jours pour vraiment fournir un programme de français intensif, sachant qu'il y a quand même une première étape qui est bien sûr la plus importante, c'est de maîtriser le français. Si on veut travailler en France, si on veut poursuivre des études, si on veut avoir un travail qualifié, il faut parler français. Et donc... d'une part, les structures pour apprendre le français en France en général et sur les gens sont quand même très limitées. Quand on est demandeur d'asile, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de statut, on a accès à tout ce qui est proposé par les associations. Vous connaissez quelque chose. Mais bon, les associations ne peuvent pas fournir des cours intensifs à des centaines de personnes. Donc, possibilité de commencer à avoir les rudiments du français, mais à un moment on ne peut pas aller plus loin, et même sur le plan de ce qui est plus institutionnel, c'est-à-dire ce qui est mis en place par l'État, tous les dispositifs qui sont financés par la région, par le ministère, etc., bon, il en existe, hein. Ils sont tout à fait insuffisants, et surtout ils ne peuvent pas conduire les personnes à un niveau de français qui leur permet de reprendre des études. On leur donne le français basique pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie et pour qu'ils puissent occuper des postes peu qualifiés, mais ça s'arrête là. Donc voilà, donc cette année-là, on a fait ça et on a donc formé du mieux qu'on a pu au français ces 45 personnes. Et à la fin de cette année, on s'est dit, ben voilà, maintenant, c'était un peu une expérience, c'était pas vraiment quelque chose d'institutionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Et là... c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée dans la position en tant qu'enseignante de cette UFR qui organise la formation des enseignants de français, à mettre en place donc quelque chose qui serait plus institutionnel, donc une vraie formation avec, si vous êtes étudiant, vous savez, avec une maquette, avec un programme, avec etc. Et qu'on a mis en place donc ce diplôme qu'on a, ce DU passerelle étudiant en exil. Donc, il fonctionne maintenant depuis, sous titre des 8 passerelles étudiants en exil, depuis la rentrée 2017. Et il accueille à l'heure actuelle 80 personnes. Donc, on a 4 groupes de 20 étudiants qui sont originaires de... On a 22 nationalités représentées dans ce DU. Donc, depuis 8 ans... on a un peu, on a suivi les les crises internationales, les crises politiques, humanitaires, etc. Donc avec des afflux de personnes d'origines diverses suivant les conflits dans le monde et les répressions et autres obligations de fuir. Donc bien sûr qu'à l'heure actuelle, on a par exemple beaucoup d'étudiants à Caen et on a aussi des personnes qui viennent d'Ukraine et puis on a des personnes qui viennent du monde entier, du Venezuela, de Colombie, du Yémen, de Somalie, du monde entier. Donc le DU Passerelle s'est passé de quelque chose qui fonctionnait sans argent du tout à une structure qui a commencé à aller gratter de l'argent. Bon, j'ai commencé à chercher de l'argent à droite et à gauche. Et petit à petit, à organiser des choses avec des gens plus qualifiés, à pouvoir avoir des vacataires, à pouvoir avoir des gens formés. Et petit à petit, donc, à obtenir aussi une certaine reconnaissance de la part des partenaires sur le territoire, de la part du ministère via la DETS, la direction du travail, qui était avant la cohésion sociale, mais aussi d'autres organismes. Donc voilà, c'était beaucoup de travail pour aller chercher de l'argent. J'avoue que je me suis transformée pendant pas mal d'années, avant tout en leveuse de fonds. Voilà, tout ça s'est construit à la fois ici à Dijon avec notre équipe, avec les personnes impliquées, dont notamment Jérôme Berthaud, qui est un prof d'Infocom et qui était. On a beaucoup travaillé ensemble sur le montage de ce projet. Et puis aussi, donc, en parallèle avec MENS, puisque ce collectif qui est devenu maintenant une association a été vraiment notre force, puisqu'on a été, on a toujours beaucoup échangé sur nos pratiques, porté des projets ensemble, fait avancer cette question de l'intégration à l'université des étudiants exilés auprès des ministères, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait grâce au fait qu'on était un collectif d'universités. Donc aussi bien des échanges sur nos pratiques et comment améliorer notre accompagnement pour nos étudiants, que comment faire bouger les choses au niveau du ministère. Donc, quand même, on peut dire des choses positives, puisque les DU Passerelles ont obtenu une habilitation il y a 5 ans maintenant, ce qui fait que les personnes qui viennent au DU Passerelles peuvent obtenir des bourses du CROUS. Donc, ils peuvent avoir des bourses sur critères sociaux. Donc, en général, comme ils n'ont aucune ressource, ils ont des bourses échelon 7 qui leur permettent quand même de suivre ce DU en ayant un minimum de ressources, surtout pour les jeunes qui ont moins de 25 ans et qui n'ont donc pas droit au RSA ou d'autres qui n'ont aucun moyen financier. Donc, ça leur permet aussi d'accéder à la résidence universitaire, avoir des chambres, à des conditions d'études qui sont quand même plus acceptables. Donc ça a été un gros chantier qui a abouti quand même. Il y a plein de chantiers qu'on mène aussi ensemble au sein du MEMS. Et surtout, on travaille beaucoup sur qu'est-ce que c'est un DU passerelle. Il y a le mot passerelle, et dans la passerelle, il n'y a pas besoin que de français. Il y a besoin de plein d'autres choses. Donc on fait plein d'autres choses au sein du DU passerelle que de donner des cours de français. On a appris notre métier aussi par la pratique au fil des années on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité d'un accompagnement pour que ces personnes puissent s'insérer soit dans les études, soit dans le monde professionnel, et qu'il ne suffisait pas de parler français, mais qu'il y avait plein d'autres choses à faire. Donc on a maintenant une personne à plein temps qui est chargée de cet accompagnement, et on a beaucoup travaillé ces dernières années sur les reprises d'études, parce que les premières années, on a un peu envoyé les gens, surtout la première année, on a un peu envoyé les gens en reprise d'études comme ça, t'as une licence, t'as un master en ça, tu vas faire un master 2 et puis ça va être bon. C'était pas toujours évident, il y a eu des échecs parce que les gens n'étaient pas prêts. Déjà le niveau de français était peut-être pas suffisant, mais il y avait plein d'autres choses. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc maintenant, on a tout un travail avec toutes les composantes de l'UB. Chaque année, on fait vraiment un programme très individualisé à chacun de nos étudiants. Si un étudiant a un projet de reprendre des études de droit, pendant son année de DU Passerelle, on travaille avec la fac de droit pour qu'il puisse suivre des cours de droit pendant toute une année. Le matin, il apprend le français, mais l'après-midi, il ou elle va dans différents cours de droit. Ça peut être dans n'importe quelle composante de l'université. On a des gens qui font absolument tout, la biologie, le droit, le bâtiment, hein, les langues et la médecine, ce qui est quand même un gros problème. Oui.
En dehors de votre initiative, vous, précédemment à l'université, est-ce qu'il y avait d'autres structures? Là, on parle essentiellement des étudiants exilés ou des personnes en reprise d'études d'origine étrangère. Mais est-ce qu'il y avait d'autres accueils, de manière générale, présents déjà sur la fac, avant vous, votre initiative, ou qu'est-ce qui s'était mis en place? Si vous êtes au courant, rien du tout.
Oui, ça a toujours été du ressort. La porte d'entrée à l'université, c'est le pôle des relations internationales. Ouais. Donc, c'est pour ça que le pôle des relations internationales a été en première ligne en 2015. Hein, c'est parce qu'en fait, c'est eux qui reçoivent toutes les demandes des personnes. Des demandeurs d'asile ou des personnes qui étaient déjà sur le territoire, mais ce n'était pas structuré, il n'y avait pas de formation de français. Donc ça existe toujours, ça, je veux dire, le pôle des relations internationales, parce qu'en fait la spécificité du DU Passerelle, c'est que nous, on accueille des étudiants non francophones. Donc ça veut dire que ça exclut de fait les personnes qui viennent par exemple d'Afrique francophone et qui voudraient aussi reprendre des études et qui ont fait des études en français, qui ont fait des études secondaires censément en français, mais il n'empêche qu'ils ont aussi souvent des grosses difficultés pour réellement à intégrer un cursus ici à l'UB. Donc ça a toujours été les relations internationales qui se sont occupées de ça. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ne parlaient pas français, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de réponse. Donc... il n'y avait pas de dispositif spécifique, c'est du cas par cas, c'est des individus. Mais le pôle des relations internationales, par exemple, a toujours reçu les personnes, par exemple les demandeurs d'asile ou les extra-communautaires qui parlaient suffisamment français pour intégrer l'université et faisaient déjà ce travail de prise de contact des composantes pour essayer de trouver dans quelle discipline, dans quelle filière ces personnes pourraient être accueillies. Ça existait déjà, mais de manière... individuel, ponctuel. Oui, on s'est quand même aussi basé sur cette équipe. Donc voilà, comme vous l'a dit Pauline, maintenant il y a une quarantaine de DU Passerelle en France, donc il y a 1500 étudiants en exil qui sont accueillis dans les DU Passerelle. Nous, cette année, par exemple, les personnes peuvent suivre ce DU pendant une année ou deux années. Ça dépend de leur niveau de départ, de la vitesse à laquelle ils apprennent le français, de leur projet, etc. Cette année, là, on a environ 35 personnes qui vont rentrer en études l'année prochaine, qui vont entrer dans les différentes filières l'année prochaine parmi nos 80 étudiants. Il y en a une trentaine qui vont faire une deuxième année, mais il y a aussi des personnes qui... vont aller vers des formations professionnelles plus courtes, qui ne vont pas forcément reprendre leurs études à l'université. On travaille aussi pas mal avec l'IUT, avec des formations plus courtes, même avec des BTS, mais aussi avec des formations qualifiantes qui peuvent permettre à des gens de retrouver un emploi plus vite. Il faut savoir que nous, on accueille des personnes de 18, 17 même maintenant, jusqu'à environ 45 ans, des personnes qui ont des familles, il y a des gens qui ont des enfants, le projet de reprise d'études, il est remis en cause parce que finalement, on se rend compte que ça va être dur avec les gosses de reprendre 3 ans d'études. Donc, ils choisissent aussi de s'orienter vers des requalifications plus courtes. Mais bon, voilà, ça c'est tout le travail d'accompagnement qui fait qu'on essaye que chacun, quand il sort du DU, ait une solution professionnelle ou d'études, mais on n'a pas non plus 100% de solution, hein, parce que c'est pas, on n'a pas de baguette magique.
Ouais. Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas trop de problèmes parce que du coup, il y a une équivalence entre les différentes formations. Pour les étudiants extra-communautaires, est-ce que quand ils arrivent, vous avez moyen de faire valoir les études qu'ils ont faites dans leur pays pour qu'ensuite, quand ils intègrent une formation française, ils puissent avoir justement ces années déjà passées ou ils doivent reprendre les études ?
Il n'y a pas du tout, il n'y a rien de fixe. Il n'y a rien de fixe. Alors, on a un système en France. On a un organisme qui s'appelle ENIC-NARIC, qui est un organisme de certification qui délivre ce qu'on appelle, pas du tout des équivalences, mais des attestations de comparabilité, c'est-à-dire qu'il délivre un document qui indique, ben voilà, cette personne, elle a fait ça dans son pays, ça correspond à un niveau bac plus 2, plus 3, plus 4. Donc voilà, il délivre cette attestation de comparabilité. Maintenant, le problème, c'est que les cursus sont complètement différents d'un pays à l'autre. Même dans ce qui serait censé être la même discipline, ça peut être vraiment abordé de manière très différente. Les méthodologies sont différentes. Ce qui fait que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, nous au début, moi je disais, oui, quelqu'un qui a une licence, il doit rentrer en master. Ben oui, mais je me suis rendu compte que c'est pas si simple. C'est pas si simple, d'où la mise en place de ces immersions dans les filières. Et ce sont les étudiants eux-mêmes qui... en font l'expérience, ils vont voir quel niveau c'est, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont besoin de reprendre plutôt en deuxième année alors qu'ils avaient déjà terminé leur licence. Il n'y a rien d'évident au départ. Il y a des gens qui sont rentrés directement en master et il y en a d'autres qui ont des masters qui reprennent en première année. Donc pour nous l'important c'est que les gens réussissent, donc ils soient au niveau, à l'endroit où ils vont réussir. Et avec leur accord. Alors bien sûr, ça occasionne pas mal de déceptions. Hein. Ça, c'est certain que parfois les étudiants pensent qu'avec leur bachelor, ils vont rentrer en master et puis ils se rendent compte que ça ne va pas être possible. Mais ça ne va pas être possible, pas seulement pour des raisons administratives, sincèrement, mais aussi parce que il y a des prérequis qu'il faut qu'ils revoient, quoi, qu'ils n'ont pas. Donc, nous, on essaye, on fait vraiment quelque chose pour chaque étudiant. On rencontre les directeurs de formation, on discute avec eux, on fait des longs entretiens, des longues immersions. On fait tout ce qui va être possible pour que, effectivement, la personne puisse reprendre là où elle va pouvoir réussir. Et,
il y avait une autre question.
Ouais.
Enfin,
si t'as terminé. Non, mais j'arrête parce que je crois que c'est déjà. Mais s'il y a d'autres questions sur...
Moi, j'avais une question.
Oui.
Je recoupe un petit peu la précédente. En fait, pour les personnes qui arrivent, vous disiez des médecins, des ingénieurs qui sont déjà diplômés, qui vont plus ou moins maîtriser le français, ça n'inclut pas forcément l'accès à la profession parce que.
Pas du tout, non.
Des équivalences.
Il n'y a pas d'équivalence.
Voilà, c'est
non.
Ça.
Ben non, après, chaque métier nécessite... il y a une approche différente. L'approche pour les professions réglementées, c'est très particulier. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la santé et du domaine du droit, professions réglementées, ordre des médecins, ordre des avocats, etc. Là, nous, on a fait beaucoup de travail depuis des années, parce qu'au début, comme je vous le disais, on n'était pas du tout des spécialistes de ça. Donc, on a appris à connaître les voies d'accès, les concours, etc. On a eu une grande victoire cette année, quand même, parce que la fac de médecine, c'est quand même l'endroit le plus verrouillé qui existe hein, dans toute la France. On a réussi, par exemple, cette année, à enfin mettre un pied à la fac de droit. Et on a obtenu que des étudiants soient reçus, qu'on puisse présenter leurs dossiers, qu'on puisse les présenter leur parcours. Ils sont venus expliquer ce qu'ils avaient fait et on a obtenu qu'ils leur donnent des accès aux cours en ligne de première année de médecine pour se préparer pour l'année prochaine. Donc on obtient des choses. Mais voilà, ce sont des parcours très difficiles. C'est vraiment, il faut avoir une volonté énorme. Mais il y a quand même, je crois, environ maintenant 7 ou 8 médecins qui sont passés par le DU Passerelle ici à Dijon et qui sont maintenant médecins de plein droit. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment toutes les autorisations d'exercer. Ils ne sont pas des professionnels associés, payés au lance-pierre pour travailler aux urgences. Donc je crois qu'il y en a à peu près 7 à l'heure actuelle. Donc pratiquement tous les médecins qui sont passés par chez nous ont réussi à travailler comme médecin. On n'a encore personne qui était avocat et qui est redevenu avocat chez nous. On a des gens qui sont en droit, mais on n'a encore personne qui a pu rentrer ni comme juge ni comme avocat. Ça, on n'a pas encore abouti sur ces parcours-là, mais bon, on y travaille. On en a 3, 4 en master l'année prochaine de droit. Un juge de la famille Adam, un avocat syrien et aussi une ukrainienne. Donc voilà, on espère qu'on va réussir aussi à franchir ces obstacles-là dans le domaine du droit. Mais c'est vraiment difficile. Et même les ingénieurs. On a des ingénieurs. Pour les ingénieurs, par exemple, on a plusieurs ingénieurs qui ont repris un master. Alors qu'ils avaient un diplôme d'ingénieur, ils ont repris 2 ans de master pour avoir un diplôme français et pour rentrer dans le monde du travail français, pour faire des stages dans le milieu professionnel, parce que les mondes professionnels aussi ne fonctionnent pas pareil d'un pays à l'autre. Et c'est difficile. Par exemple, nous, on a un mode d'accès à l'emploi avec les lettres de candidature, avec les CV, avec les entretiens qui sont d'une archi-codée. Il n'y a pas du tout ça dans des tas d'autres pays. Donc ça ne s'improvise pas. Je veux dire, c'est des cultures d'entrée dans le monde professionnel qui sont... Si on n'a jamais mis les pieds dans une entreprise en France ou même en Europe, ben voilà, il y a des choses à découvrir. Donc nous, on a aussi, dans le DU Passerelle, on a intégré aussi des stages en milieu professionnel. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est que tous nos étudiants fassent un mois, 2 mois de stage pour mettre un pied un jour dans une entreprise. Commencer à mettre un pied dans une entreprise. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Et les étudiants, ils recherchent vraiment ça. Ils sont vraiment très demandeurs de ça. Et puis, on fait plein d'autres choses. Donc, je le dis, on fait des stages artistiques. Tous les ans, on a une semaine de stage artistique. On a du tutorat, du compagnonnage avec nos étudiants de l'UFR Lettres. On a des ateliers d'informatique, on fait des week-ends d'intégration, on organise des concerts, on a une association étudiante qui organise plein de sorties pour aussi découvrir la région, la vie culturelle, partager des choses interculturelles avec les étudiants d'ici. Voilà, donc c'est un programme très très complet en fait. Là, je vais parler plus de l'insertion universitaire, mais il y a beaucoup de choses dans ce programme. On a aussi un atelier qui s'appelle Un moment pour soi, qui est un atelier, on va dire, d'art-thérapie, qui est un moment où les gens peuvent venir parler un peu autrement de leurs difficultés ici. Donc voilà. En gros, c'est ça.
Comment c'est fait, toi?
Il n'y a pas d'autres questions, peut-être une dernière ou...
Voilà, donc c'est juste la dernière chose. Là, en ce moment, on est en phase de candidature pour l'année prochaine. Donc il y a une candidature papier ou en ligne jusqu'au 15 mai. Ensuite, on va faire passer un test de français aux personnes et puis avoir des entretiens approfondis avec les personnes du 1er au 15 juin. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles de candidater, ça serait bien de s'y mettre maintenant pour suivre toutes ces étapes.
Voilà. Merci.
Du coup, vous m'entendez? Du coup, je me permets de prendre la parole. Donc, Jérémy Sevino, je suis anthropologue à l'Université de Bourgogne. Et entre 2018 et 2023, j'ai mené des enquêtes auprès de personnes exilées en France, qui est arrivées en France depuis 2010, pas en Bourgogne-Franche-Comté, depuis 2010. D'une part, je retire l'année 2010, parce que c'est le... Enfin, 2009-2011, c'est le début des grands printemps arabes, vous avez tous entendu parler, et c'est un moment, entre guillemets, de crise, j'en reviens sur ce moment de crise, où on voit un afflux, entre guillemets, de personnes vers le continent européen. Donc ça tient d'une part à la chute de Moubarak en Tunisie, ou en Égypte, et surtout à la chute de Muammar Kadhafi en Libye, parce qu'il y avait beaucoup de personnes subsahariennes qui travaillaient en Libye. Et d'un seul coup, Kadhafi tombe, et là, quasiment 1 million de personnes qui étaient en Afrique, en Libye, cherchent à partir. Et l'autre point, c'est bien sûr à partir de 2015, le grand exil syrien que Claire vient de raconter. Et d'autre part, je me suis intéressé du coup à la région Bourgogne-Franche-Comté, pas forcément parce que j'étais originaire d'ici, mais parce que la recherche scientifique s'intéressait à 3 endroits, en fait, principalement. Paris, puisque tous les chercheurs sont à Paris, pour aller vite. Le nord de la France, notamment le duo Calais et Grande-Synthe, où avec la jungle de Calais, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits là-bas. Et enfin, tout ce qui est autour de la vallée de la Roya, donc Nice, et du côté italien, Bardonnèche qui est un peu plus haut, et surtout Vintimille. Et donc l'idée, c'était d'appuyer, de montrer un regard un petit peu plus, entre guillemets, provincial, en tout cas moins parisien ou centré, de l'accueil des migrants en région et dans les mondes ruraux. Et donc, durant ces enquêtes ethnographiques, je me suis intéressé finalement à comment les personnes s'intègrent. Alors, je mets plein de guillemets autour du mot d'intégration, puisqu'il est galvaudé, vous le savez bien. Donc là, c'est juste entre nous pour qu'on comprenne bien un petit peu de quoi je parle. Donc, je me suis intéressé à comment ces personnes s'intègrent, entre guillemets, à un pays comme la France, sur 10, 15 ans pour les plus vieux d'entre eux. Et du coup, ça m'a amené à essayer de dégager ce qu'en sociologie on appelle des épreuves. En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées, donc j'ai rencontré des personnes de 4 continents, qui étaient des réfugiés politiques, donc Europe, enfin l'Azerbaïdjan seulement, et des personnes qui venaient d'Amérique du Sud, qui venaient également d'Afrique et qui venaient d'Asie. Donc les pays que Claire a dit tout à l'heure, hein, voilà, Érythrée, Somalie, Mali, Afghanistan, Syrie, etc., etc. Et donc toutes ces personnes-là, elles me disaient que ces parcours rétrospectifs d'intégration, entre guillemets, passaient par 3 moments capitaux, en tout cas 3 épreuves. Et ces 3 épreuves avaient lieu, d'une part, à essayer d'habiter un lieu, d'autre part, à meubler la tente, et d'autre part, à travailler. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu ces 3 épreuves-là, qui font en fait le corps de ma thèse. Juste avant ça, je reviens un petit peu sur cette décennie 2010. Donc je vous l'ai dit qu'il y a eu un grand afflux de personnes, et notamment l'Allemagne a accueilli 1 million de personnes, et ça a déclenché une crise qu'on appelait la crise migratoire, la crise des migrants, la crise de l'asile, appelez-la comme vous voulez, tous les noms ils sont passés. Et finalement, les politistes ont montré qu'il n'y avait pas du tout une crise des réfugiés, mais qu'il y avait plutôt une crise de l'accueil, une crise de l'hospitalité, une crise entre les États européens qui avaient énormément de mal à nommer correctement ce qui se passait. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que cette décennie 2010 a plutôt servi d'argument à, on va dire, le raidissement de la pente sécuritaire sur laquelle l'Europe était au moins depuis Schengen. Donc cet afflux a permis de cautionner toute la politique sécuritaire de construction de murs, par exemple en Hongrie, de militarisation des frontières extérieures de l'Europe, de militarisation également des frontières internes à Schengen, hein, notamment en France, Italie et France-Espagne. Hein, normalement, il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de contrôle depuis l'espace Schengen, mais là, la France a réinstauré des contrôles italiens. Si vous avez pris le train entre Vintimille et Menton, voilà, vous savez très bien que les personnes noires ne passent pas. Donc c'était un petit peu voilà, pour essayer de reparler du contexte politique un peu général, sans tomber dans le détail de la politique européenne. Donc ces personnes qui arrivent en 2010 à Dijon font face, comme beaucoup de gens sur le territoire français, à un espèce de, enfin même on peut le dire, à un sous-dimensionnement du dispositif national d'accueil. En gros, quand vous arrivez en France et que vous demandez l'asile, vous devez normalement être obligatoirement hébergé dans un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Or, les derniers chiffres, même si ça va un petit peu mieux en ce moment, faisaient état d'environ 50% des personnes qui étaient logées, 50% qui n'étaient pas logées. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est un peu moins dans la mesure où c'est surtout Paris en fait qui fait augmenter la moyenne. Tous les gens arrivent à Paris, en tout cas veulent au moins aller à Paris parce qu'ils ont de la famille, des amis, des compatriotes, etc., etc. Mais n'empêche qu'au début des années 2010, à Dijon, il y a quand même un afflux de personnes qui n'ont plus de logement. Donc on se retrouve avec des personnes du coup qui sont sans domicile fixe à Dijon et un entre guillemets vide associatif puisqu'on arrive à une espèce de tournant. Beaucoup de militants de certaines associations vieillissent, certaines associations vont disparaître. Et finalement, on a tout un tas de militants qui vont se rencontrer autour de cette question du sans domicile fixe, du nom d'hébergement. entre autres, hein, il y a également les distributions alimentaires ou la question des papiers, mais Dominique et Paul vous en parleront. Moi, je vais plutôt m'intéresser à cette question du logement. Cette question du logement, c'est un peu une question insoluble. Comment essayer de loger 100 personnes d'un coup? Et dans ce monde associatif qui commence un petit peu à s'amalgamer, il y a quand même des dissensions assez fortes entre des militants plutôt cathos de gauche, des militants qui sont plutôt libertaires, style l'anti-artannerie, des gens qui viennent du syndicalisme, etc., etc. Et finalement, d'une façon assez incroyable, je pense que c'est peut-être le mot, non ? Tout ce public-là va réussir à s'amalgamer autour de l'ouverture de deux squats, qui était donc l'école des greffes et qui était le squat de la boucherie derrière l'Antiguerre. Pardon ?
D'abord
la boucherie, puis l'école des greffes. Et du coup, moi, je me suis intéressé un petit peu à toutes ces ouvertures de squats qui se sont succédées dans les années 2010. C'est un peu le travail militant qu'il y avait derrière ça. Comment réussir à installer ces squats-là et à les maintenir? Donc on voit qu'il y a une espèce de division du travail, si vous voulez, pour aller vite, entre des militants qui vont les ouvrir avec leurs mains, si je puis dire comme ça, des avocates qui vont aller les défendre dans les tribunaux, etc., etc. En fait, je me suis intéressé à tout ce travail pour essayer de faire de Dijon un espace hospitalier aux squats. C'est-à-dire comment, pendant 10 ans, les personnes vont faire tout ce qui est en leur pouvoir, entre guillemets, pour essayer de maintenir cette possibilité vivace. Et c'est une exception dans la région, puisque jusqu'à très récemment, il n'y avait que Dijon où il y avait un squat. Maintenant, il y en a un à Besançon. Je crois qu'il a été expulsé depuis dans la maison d'ANF. En tout cas, c'était quelque chose qui essaie d'interpeller les pouvoirs publics. Pourquoi à Dijon suffit-il qu'il y a ça, et dans les autres villes, suffit-il qu'il n'y a pas ça? Donc moi, j'ai essayé un petit peu d'enquêter là-dessus pour essayer de trouver des éléments explicatifs. Et je me suis également surtout intéressé à comment ces personnes qui étaient dans les squats se l'appropriaient. Alors certes, un squat, c'est un endroit absolument immonde en général. Je me souviens de Kennedy où il y avait des excréments absolument partout, au premier étage ou au deuxième étage. Il n'y a pas de filet d'eau, etc., etc. Finalement, comment les gens... comment une espèce de petite fleur va pousser sur un tas d'immondices, quoi. Comment les gens vont s'approprier tous ces espaces-là. Et donc, j'ai essayé de regarder comment ces squats étaient appropriés. Donc, on voit que les squats, ça permet finalement de se... Paul le dit souvent, qu'au moins il y a deux squats, mieux c'est. Tout le monde partage cette idée-là. Si tout le monde était logé, ce serait vachement mieux. Mais n'empêche que les personnes se retrouvent en squat un peu malgré elles. Et du coup... L'objet de cette première partie, ça a été de voir comment les personnes s'appropriaient l'espace. Donc j'ai mis tout un tas en avant de qualité spatiale sur cette appropriation de lieux. Et on se rend compte, que ces lieux permettent, par exemple, de réunir des compatriotes qui n'avaient pas forcément lieu. Ce sont des grands réseaux où vont circuler des biens et des informations, mais également où certaines informations et certains biens ne circulent pas. Donc il y a une espèce de tri dans tout ce qui circule et dans tout ce qui ne circule pas. Je me suis également intéressé un petit peu à toutes ces pratiques culturelles qui pouvaient scander le quotidien, mais j'y reviendrai un petit peu plus dans ma deuxième partie. Et enfin, je me suis également intéressé à toutes les mobilisations un petit peu plus, audacieuses autour des squats, et notamment les questions des manifestations et d'autres répertoires qui ont notamment été mobilisés à la suite de l'expulsion d'un squat qui était celui de la CPAM il y a quelques années, où il y avait eu Fred Zamen a été bien embêté sur plusieurs événements municipaux. Et comment ce genre d'événement-là peut également fracturer, entre guillemets, le collectif qui s'était amalgamé, et comment le collectif travaille pour essayer de soigner un petit peu ses plaies. Et ce qui ressort un petit peu de l'enquête, c'est que finalement, il y a également certaines stratégies un peu plus dures, un peu plus difficiles, comme ces mobilisations-là, qui peuvent fonctionner dans le maintien d'un squat. La deuxième grande épreuve à laquelle je me suis intéressé, c'est celle finalement de l'attente. En gros, quand vous demandez l'asile, c'est un peu moins vrai maintenant, mais vous aviez une période de 2 à 3 ans qui s'ouvrait où vous n'aviez absolument le droit de rien faire. La métaphore carcérale a souvent été utilisée par les personnes que j'interrogeais pour qualifier cette vie en CADA, donc en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et finalement, plus les années 2010 avançaient, donc plus la bande sécuritaire européenne se raidissait, plus la bande sécuritaire française se raidissait également. donc au gré des réformes des politiques publiques, donc que ce soit celui de 2014, je crois, plus la loi Collomb en 2018 et enfin celle qui arrive maintenant, on se rend compte que les personnes ont vu leur liberté de plus en plus restreinte. Quand vous habitez un CADA, vous n'avez pas le droit de quitter la région pendant tant de temps, même si des arrangements existent. Vous n'avez pas le droit de travailler, c'est extrêmement compliqué en tout cas d'avoir des autorisations, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, c'est l'ennui qui devient la seule activité qui est possible. Et donc, cet ennui, je me suis intéressé un petit peu aux conséquences, on va dire psychiques, on peut les qualifier comme ça, sur les personnes de cet ennui-là. Et il ressort quand même un portrait assez... C'est dur, hein, entre des compensations psychotiques, hein, ça peut aller jusqu'à des bouffées délirantes, par exemple, sur le thème de persécution passée ou sur le thème de l'attente, mais également bien sûr, des dépressions, des auto-scarifications et toutes ces parties-là qui peuvent, entre guillemets, essayer par lesquelles les personnes vont essayer de survivre. Hein. Il y a beaucoup de travaux en sociologie qui montrent comment les scarifications sont, au-delà d'un appel à l'aide, une espèce de bouée de sauvetage. Donc, je me suis essayé d'intéresser à ça. Et le petit mystère qui était assez intéressant, entre guillemets, c'est que les personnes qui ont vécu ces épreuves-là sont extrêmement critiques, hein, vis-à-vis des politiques françaises, ces politiques d'attente, ces politiques d'empêchement, comme on peut l'amener, puisque les personnes sont empêchées de faire plein de choses. Et finalement, comment ces personnes-là qui ont vécu ça ne vont pas vraiment, entre guillemets, dissuader les personnes de venir, mais vont diffuser, notamment via les réseaux sociaux, des images assez glorifiantes de la France, finalement, où on se prend en photo devant la Tour Eiffel, devant la Tour Philippe le Bon, etc., alors qu'on vit des choses extrêmement complexes à la fois. Et finalement, c'était un peu cette double injonction entre cette double injonction, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, cette espèce de petite contradiction entre vivre des épreuves assez catastrophiques pour soi et ne pas dissuader à l'immigration. Pas pour tous, hein. Bien sûr, certains sont des militants acharnés du fait de dissuader les personnes de ne pas y aller. Donc ce qui m'a intéressé, c'était comment les personnes faisaient face à cette attente assez, enfin, en tout cas aux conséquences assez mortifères. Et plus précisément, comment des revendications d'héritage, des revendications culturelles peuvent aider à atténuer les effets de l'attente. Je me suis intéressé surtout à deux stratégies, en tout cas à deux formes de résistance, entre guillemets. D'un côté, des revendications plutôt sportives au niveau de joueurs de cricket afghans. Ça peut peut-être vous étonner, je reviendrai là-dessus. Et d'autre part, les fêtes qui sont organisées par toutes les associations de la Bourgogne-Franche-Comté. Ça va du SOS Complément ou BU étudiants en exil. Oui, pour info, j'ai mené des enquêtes dans 7 des 8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a juste le département de Lyon, pardon, où je suis pas allé. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu en miroir le match de cricket auquel ça donne les joueurs afghans de cricket, parce que c'est une véritable passion, c'est l'équivalent du foot là-bas, et d'un autre côté, les fêtes. Alors, sur ce côté cricket, on pourrait se dire que c'est parfaitement... futile finalement, des mecs jouent au cricket sur un vieux terrain en bordure de la ville de Nevers, quelle importance ça a. Et finalement, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que les personnes qui jouaient au cricket bâtissaient tout ce qu'on peut appeler, ça un dispositif socio-technique en fait. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que les personnes vont remodifier l'espace de ce square-là par différentes techniques. Alors, d'un côté, par la convocation de non-humains, entre guillemets, donc par exemple, c'était des musulmans donc, qui priaient Allah entre deux shots de cricket, entre deux overs, on appelle ça quand on joue au cricket, qui modifiaient le terrain en mettant des lignes un peu fantomatiques, en tout cas les lignes entre lesquelles c'est une espèce de baseball, le cricket, donc comment les personnes courent autour d'un stade. Et tout un tas de choses, hein, tout un régime d'objets nouveaux, en tout cas, qui refait revivre ce qu'ils étaient avant, et par tout un ensemble d'objets qu'on peut dire pas nationalistes, mais en tout cas voilà, des drapeaux de l'Afghanistan, etc., etc. Et finalement, ce que je montre là-dedans, c'est que jouer au cricket, c'est pas seulement jouer au cricket, c'est également faire l'expérience de ce qu'on peut appeler une afghanité, c'est-à-dire la reconstruction d'une ethnicité en migration par la reconstruction d'un micro-espace afghan sur ce coin de Nevers. Et cette forme de reconstruction d'un pays symbolique permet un peu de revivre une nostalgie qu'on peut dire douce amère. D'un côté amère parce que c'est des choses que les personnes ont perdues définitivement, mais également douce parce que c'est des choses qui vont leur faire revivre le bonheur d'antan. Voilà, il y avait beaucoup d'éléments nostalgiques sur le plaisir de jouer au cricket quand ils étaient gamins, etc., etc. Donc je le fais en version raccourcie, mais en gros c'est ça. Je veux dire, le baseball pour les personnes qui viennent d'Amérique du Sud ou le cricket ou n'importe quel sport, ce n'est pas qu'une passion futile quand ils le font ici, mais c'est vraiment des choses vraiment intéressantes à creuser pour un sociologue où il se passe des choses. Et d'autre part, j'ai un peu déplacé la focale en me demandant ce que faisaient les associations plus précisément, elles aussi, pour essayer de limiter cette attente. Et c'est un lien du coup au thème du festival qui est le thème du racisme, puisqu'on organise beaucoup de fêtes pour essayer de rendre les gens moins racistes pour aller vite. En gros, les associations vont théoriser une espèce de rencontre un petit peu épiphanique, un petit peu magique, où par la rencontre de personnes qui ont vraiment vécu la migration, les personnes peu ou prou racistes deviendraient d'un seul coup un petit peu moins racistes. Bon, c'est plus compliqué que ça, je ne rentre pas dans les détails, parce que finalement il y a un problème de taille qui s'appelle le problème des convaincus, et que finalement les gens qui viennent au fait, ce sont des gens qui sont déjà convaincus par la cause. Donc les associations vont essayer de bricoler par tout un tas de stratégies pour essayer de faire venir des gens étrangers à cette cause, mais n'y parviennent toujours, pas toujours. Et souvent la réflexion de la fête fait l'économie de la réflexion sur le long terme. Donc vous avez une fête qui est un moment un petit peu magique, et finalement le lendemain il ne se passe plus grand chose. Donc c'est pas toujours vrai ce que je dis là, hein, bien sûr. Il y a des super expériences contraires, je pense notamment à la fête à la CPM qui avait eu lieu en mars 2019, je crois juste avant la fin de la trêve hivernale, où là vraiment les voisins qui étaient venus, qui n'avaient pas toujours foutu les pieds, ont eu une espèce de révélation et il y a eu des liens qui se sont entretenus jusqu'à l'ouverture au moins du squat d'après. Et j'ai une dernière partie, je vais faire vite parce que ça fait quand même déjà longtemps que je parle, qui a trait au travail, finalement le travail comme dernière épreuve. Donc je ne passe pas sur toute la difficulté du déclassement. Pauline et Claire ont déjà parlé, hein, finalement, vous en savez déjà beaucoup, hein, les personnes sont souvent condamnées soit au sale boulot, ce que personne ne veut faire, ou au dirty job, c'est-à-dire aller nettoyer les toilettes, ou des choses comme ça, voilà, les personnes m'ont dit ça. Et moi, je me suis intéressé là-dedans, hein, enfin, je me suis posé la question, comment les personnes vont essayer d'éviter ce déclassement? Et une des stratégies, entre guillemets, à laquelle je me suis intéressé, c'est à celle de la cuisine et de l'auto-entreprise. C'est-à-dire comment la cuisine peut aider les personnes à éviter certains pièges, en tout cas à ne pas tomber dans le dirty job. La cuisine, faire de la bouffe sirène ou je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas que du folklorisme. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment les personnes, en cuisinant leur nourriture, se découvraient à nouveau capables de. En gros, il faut voir la preuve de l'exil et l'épreuve du déclassement comme une véritable épreuve au sens éprouvant, quoi. Les personnes ne pensent qu'elles ne sont plus capables de ne plus rien faire. Et finalement, par cette cuisine, comment les personnes se découvrent à nouveau capables de. Alors, je fais une petite liste, hein, comme ça, c'est pas très chouette à entendre, mais finalement, ouvrir un restaurant, ouvrir une épicerie, c'est se découvrir capable d'articuler des revendications de justice. Et ça, c'est très vrai des Syriens, en fait, notamment à Dijon. Avant qu'ils s'ouvrent la première épicerie syrienne, ils s'approvisionnaient en denrées syriennes, dans des voitures qui venaient d'Allemagne, la nuit, enfin un truc totalement clandestin. Et les personnes qui ouvrent les premières épiceries syriennes ou qui ouvrent les premiers restaurants syriens à Dijon me disent pour nous, c'est une lutte pour la justice. C'est une expérience de l'injustice qu'on va transformer et on lutte en ouvrant nos propres lieux à nous. Des lieux où se reconstruisent des diasporas, par exemple. Donc il y a une réarticulation de certaines revendications de justice. Il y a des choses qui se disent par rapport au monde commun. Donc on partage, nous Syriens, on partage le même monde que vous, Français entre guillemets, et nous n'avons pas les mêmes droits. On s'approvisionne la nuit dans les coffres de bagnole. Du coup, l'idée, c'est de voir comment ces choses-là étaient possibilité de réarticuler des revendications de justice. Et d'un autre côté, tout ce qui est plutôt pour l'Afrique, où les personnes africaines, les auto-entrepreneurs africains qui faisaient soit de la nourriture chez eux ou dans des boutiques officielles ou en épicerie, eux me disaient lutter contre l'appropriation culturelle, je cite, des Chinois. Qui monopolisait, si vous voulez, le marché des denrées africaines à Dijon, du moins. Donc, en gros, ouvrir une épicerie africaine, c'était un moyen de lutter contre une appropriation culturelle qui jugeait injuste. L'appropriation culturelle, c'est, si vous voulez, pas. Les grandes entreprises, par exemple, qui vont vendre des attrape-rêves inuits et qui, enfin, sans le sens culturel de ce qui va derrière. Donc là, c'était un petit peu pareil, en fait. Les personnes faisaient un espèce de parallèle comme ça, en disant les Chinois nous vendent nos produits à nous, et bien nous, on va se rebeller, entre guillemets, c'est un mot qui a été dit, en ouvrant nos propres lieux. Du coup, une autre chose, c'est de se rendre capable à nouveau de se reconstruire un nouveau statut, donc un statut socio-professionnel, hein, celui d'être de nouveau reconnu et pas seulement être assigné au dirty job, je passe très vite là-dessus, mais également se construire un statut administratif, puisque parfois l'auto-entrepreneuriat peut être le seul moyen, si vous voulez, de maintenir ses papiers. Notamment pour certains Sud-Américains ont beaucoup fait ça quand ils étudiaient, quand ils se retrouvaient au pied du mur, ils montaient une auto-entreprise, ils essayaient de trouver un petit peu la durabilité de l'entreprise, et finalement ils gagnaient des papiers comme ça, donc encore une fois par la cuisine. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'était que finalement la cuisine c'était aussi un moyen de se sentir appartenir à. En fait, les personnes, surtout les Syriens qui ont été, excusez-moi, ça va être très, très cavalier ce que je veux dire, mieux accueillis entre guillemets que les autres personnes, notamment par certains programmes, hein, tout simplement, et qui ouvrent des restaurants, me disent texto que la nourriture, c'est le moyen de rendre à la France ce qu'il leur a donné. Et là, on a une espèce d'appartenance symbolique en donnant un contre-don du don qu'on a reçu. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que cette nourriture, c'est pas que de la nourriture. Il y a toute une reconstruction patrimoniale autour de cette nourriture pour dire que c'est un patrimoine. En fait, il l'enrobe, si vous voulez, d'une espèce de voile patrimonial qui dit que c'est une cuisine centenaire, millénaire, qui vient du syncrétisme des croisades, de l'Empire romain. Vous voyez, tout ce discours historique qui va permettre de construire véritablement du patrimoine, comme nous on construit du patrimoine. Hein, quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu toute cette émotion patrimoniale et tout. Enfin, voilà, on a ressorti Victor Hugo, on a ressorti plein de choses. Et donc c'est un peu ça l'idée, c'est de enrober d'un discours un peu historique, patrimonial, une cuisine pour en faire vraiment un symbole d'une appartenance à la France. Et du coup, je vais peut-être m'arrêter là pour ma prise de parole.
On peut regrouper peut-être les questions sur l'ensemble, si on veut y arriver, si ça vous convient. On va y aller plus haut. Bon, c'était un peu plus rapidement prévu pour qu'on y arrive tous. Donc, voilà, je vais vous parler de la loi de migration. Alors, peut-être dire comme deux mots sur le contexte légal. Hein. Cette loi touche ce qu'on appelle le CESEDA, c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers demandeurs d'asile, puisque les deux grands moyens, quand même, pour vivre en France pour un étranger non européen, c'est soit obtenir l'asile, ou la protection subsidiaire, qui est un peu liée, mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, l'asile c'est plus le danger personnel, la protection subsidiaire c'est plus par rapport à une situation dangereuse, hein, pour faire très simpliste, soit différents types de séjours liés à des raisons privées familiales, comme on dit, alors ça peut être parents d'enfants français, conjoints français, vivant depuis assez longtemps en France avec ses enfants, et le travail. Donc voilà, c'est deux grands accès, hein, l'asile et le séjour, qui sont dans ce code. Donc c'est essentiel de cette loi d'immigration, c'était de réformer ce code. Alors c'est un code qui me joue le dent. Il y a 29 lois sur l'immigration depuis 1980, ce qui est quand même énorme. L'autre chose à dire sur cette loi, c'est que c'est tout sauf un coup de tonnerre dans un ciel serein. Alors on a dit que certains ont dit que c'est un tournant. Nous, ah oui, je vais bien le présenter. Comme on dit, il faut dire ton pas. Oui, Paul Garry, je suis de la LDH, des droits de l'homme, où je m'occupe nationalement d'animer le travail sur des étrangers, et je suis aussi bénévole à l'association Assoce Indigent. Enfin, j'oublie. Oui, donc, on dit nous. Parlons pas trop de tournant. Alors, c'était un tournant politique. C'est-à-dire, c'est la première fois que, de façon ouverte, il y a eu un vote commun, et en grande partie recherché quand même, entre le gouvernement, je ne sais pas comment il faut le définir, la droite traditionnelle et l'extrême droite. Ça, ça a été un tournant peut-être politique en France. Par contre, dans les politiques suivies de migration, c'est plutôt une accentuation importante de ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'on a eu une série de lois depuis des années qui ont restreint les droits des étrangers. On peut dire globalement depuis 2002. Dans les années 80, il y a eu un certain nombre, des fois des reculs et des fois des avancées selon les couleurs politiques. Depuis 2012, c'est quand même plutôt des reculs constants. Alors, le scénario est aussi intéressant d'entrer dessus. Darmanin annonce en 2023 « Je vais faire une loi immigration et j'aurai le soutien des Républicains. » D'entrée. Ensuite, là-dessus, il fait un premier projet de loi. L'ensemble du monde associatif dit ça, une mauvaise loi qui touche aux droits des personnes et qui les restreint. Là-dessus arrive le mouvement des retraites, ça passe un peu au second plan, ils oublient de cette loi un petit moment, et ça reprend ensuite avec une procédure un peu spéciale, qui n'est pas courante en France, si on commence par le Sénat. Le Sénat qui est largement majoritairement à droite et qui leur confirmera bien dans cette affaire. Et là-dessus, à partir du projet d'Armanin, alors, il y a un débat au Sénat, mais sur des trucs vraiment... Bon, c'est pas gentil pour le courant littéraire, mais on dirait surréaliste. On a dit que c'était un concours lépine de la xénophobie, cette affaire. Dans cette idée, tout ce qu'on peut trouver pour courir vers les gens. Alors, quelques mesures en ont été retenues qui voulaient supprimer l'aide médicale d'État, qui est quand même, au moins une chose sociale extrêmement importante en France, c'est qu'on laisse pas mourir les gens dans la rue, quand ils sont malades. En la restreignant beaucoup, c'était de dire. L'accueil d'urgence, qui par définition, enfin, quand je parle de 115, est inconditionnel, deviendrait conditionnel et ne serait plus ouvert aux gens qui ont l'obligation de quitter le territoire. Supprimer un certain nombre de droits sociaux, notamment les allocations familiales pendant plusieurs années. Alors, je ne vous dis pas tout parce qu'on y passerait la soirée, mais il y en avait tout un paquet du même tonneau. Là-dessus, ça arrive à l'Assemblée nationale. Là, Gouvernement d'abord présente son projet de loi, et là, une conjonction, on va dire, de toutes les oppositions rejette le projet d'Armanin en l'État, et on fait, ça c'est la cuisine parlementaire, on s'appelle commission mixte paritaire, moitié sénateur, moitié député, et qui sortent un projet de loi qui reprend pour l'essentiel ce qu'avait prévu le Sénat, sauf la seule chose des horreurs du Sénat qui est partie dedans, c'est la suppression de l'aide médicale d'État. Pour le reste, l'essentiel est repris. Et le gouvernement dit, bon, ça va, bon, c'est pas très constitutionnel, mais tant pis. Borne l'a dit à peu près comme ça. Là, évidemment, le Conseil constitutionnel est saisi. Et le Conseil constitutionnel, en sabre, je crois, 35 mesures. 32 pour des raisons de forme, cavalier législatif, et 3 sur des raisons de fond. Alors on peut dire, à peu près, il revient à la version initiale d'Armanin, légèrement aggravé quand même. Hein. Alors après on peut dire, comme on veut, faire moitié plein, moitié vide. Le Conseil constitutionnel a largement limité les dégâts. Oui, mais on revient à une loi initiale qui était, de notre avis, tout à fait condamnable. Et 2, il y a encore des risques de retour, puisque, comme ça a été censuré, non pas sur le fond, mais enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu aussi, le Conseil constitutionnel, comme l'a dit son président, c'est pas nous qui faisons la politique, mais on vérifie la conformité à la Constitution. Comme c'est pour l'essentiel des raisons de forme, il y a quand même un risque de retour d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, LR annonce grand renfort de trompettes qui veulent faire un référendum sur l'immigration. Donc voilà un petit peu le cadre qu'il y a. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce qui reste Donc je vous épargnerai juste à quoi on a, pour le moment en tout cas, échappé, pour dire ce qui reste, et c'est déjà beaucoup. Alors, en sachant, donc, je dis aussi que certaines de mesures demandent des décrets d'application, donc on ne sait pas tout dans le détail ce qui va se passer, et d'autre part, il y a des contestations, je ne sais pas si beaucoup de juristes parlent vous, parce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité. Donc, les QPC, donc, il y aura quand même des contestations d'un certain nombre, mais c'est un processus légal complexe. Alors, une fois qu'on a dit tout ce qu'il y a, il y a quand même une chose importante, c'est la question de la connaissance de la langue française. Alors, c'est encore pire de ce qu'il voulait au début, mais là, il reste, c'est que pour un certain nombre de titres, on a élevé le niveau de la langue française, notamment pour avoir des titres stables. Ce qui pose quand même un gros problème aussi, c'est que les titres, les premiers titres sous lesquels ça a été considéré comme inconstitutionnel, le niveau de langue augmenté, ils ne peuvent pas être renouvelables ad vitam aeternam. Théoriquement, c'est 3 fois. Et quid, si on dit 3 fois, pour un titre stable, les gens n'ont pas le niveau de français, qui a été bien élevé, hein, et qui est loin de pouvoir être atteint par tout le monde, et ce qui est en plus parfaitement injuste, injuste socialement. Certains font aussi l'analyse que pour un tas de raisons, c'est aussi plus, encore plus injuste pour les femmes. Mais l'injustice sociale, elle est dans tous ceux qui font de l'aide à l'apprentissage de la langue, savent très bien que quelqu'un qui, dans son pays, n'a pas parlé plusieurs langues, n'a pas suivi d'études, a beaucoup plus de mal à apprendre le français que quelqu'un qui a déjà un niveau scolaire et social élevé en même temps. Donc, mesure parfaitement injuste, puisque des gens qui ont pu avoir un titre de séjour vont être largement précarisés pour cette raison de langue. Ensuite, et là, c'est une constante politique très grave, c'est il faut respecter les principes de la République. Je vous ferai pas, on n'a pas le temps, on ferait une interrogation écrite là, décrivez-moi ce que sont pour vous les principes de la République. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réponses comme de vous toutes et tous. Mais ce qui est quand même dans, alors, il y a des choses très, très jolies, hein, qu'il faut respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre femmes et hommes. Ce qui est bien plus embêtant, il faut respecter la devise et les symboles de la République. Ah ouais. Donc tout n'y a rien dire. Ce qui est quand même aussi très grave dans cette affaire, c'est que qui est-ce qui en juge ? Enfin, surtout pas la justice, mais la préfecture. Et ça, c'est quand même un glissement du droit. Alors, pas que en droit des étrangers d'ailleurs, hein, mais quand même particulièrement depuis des années en droit des étrangers, de transférer un certain nombre de pouvoirs de la justice dont on pense ce qu'on veut, mais qui a quand même part d'indépendance, garantie par la Constitution. Elle en fait bon usage des fois, moins bon usage d'autres fois, enfin. Tandis qu'un préfet, lui, il est payé pour obéir, par définition. C'est son métier, d'obéir et de faire obéir. Et donc, le transfert de pouvoir sur les titres de séjour des gens, sur des motifs aussi vagues que le respect des principes de la République, par les préfets qui ne sont pas là pour appliquer la justice, mais pour appliquer la politique gouvernementale, ça nous semble extrêmement dangereux pour les libertés aujourd'hui et demain. Et ce qui va dans le même sens, c'est le possible refus de titre de séjour et de non renouvellement de cartes pour menace grave pour l'ordre public. Qu'est-ce que c'est une menace grave pour l'ordre public ? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais personne ne peut le définir de façon très précise. C'est là aussi quelque chose d'éminemment subjectif. Et éminemment subjectif, éminemment politique. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été condamné, mais quelqu'un qui menace. Et on peut dire, il y a même aussi, sur certains délits, dire quelqu'un qui a encouru une peine, non pas qui a été condamné, mais qui a encouru une peine d'une certaine gravité. Ce qui, là aussi, est quand même assez ahurissant par rapport à quoi sert la justice, quoi, dans ce cas-là. Donc voilà ces questions de liberté. Excusez-moi, ensuite, on a les questions liées au travail. Alors, les questions liées au travail, parce que la première présentation d'Armanin, c'était de dire, allez, on va faire vite, il y a la carotte et le bâton. Enfin, lui disait, il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Donc, la gentillesse avec les gentils, c'était le travail. Sauf que, il y avait des parts de 2-3 choses peut-être intéressantes, mais très limitées. Parce qu'aujourd'hui, pour être régularisé par le travail, il faut avoir 5 ans d'ancienneté et avoir travaillé 8 mois pendant 2 ans sans en avoir le droit en général, en pouvant le prouver. Comprenez qui pourra. Et si on a 3 ans d'ancienneté, il faudra travailler dans les conditions 24 mois sans en avoir le droit et en pouvant le prouver. Et il faut que la demande soit soutenue par son employeur. Alors, des gens y arrivent, hein, mais c'est quand même un peu compliqué. parce que même les employeurs, des fois quand c'est comme ça, ils ne déclarent pas, les gens ne sont pas toujours sous un bon nom. Et là, c'est un délit de plus en plus grave de travailler sous un faux nom. Et puis même ceux qui le font, ils ont peur d'avoir des ennuis s'ils déclarent. Donc on le voit avec les dossiers, c'est pas si simple. Alors là, c'est l'idée qui a quand même pas fait une évolution énorme, c'est que ça devenait une carte de droit. Mais le débat parlementaire finalement a dit non, il faut quand même qu'il y ait le pouvoir du préfet derrière. C'est pas de droit, c'est de droit si le préfet veut bien. La seule grosse, relativement grosse différence, c'est de dire le salarié peut faire la demande de lui-même, il n'a plus besoin qu'elle soit formulée, soutenue par l'employeur. Mais il reste ces conditions d'avoir travaillé sans en avoir le droit. En plus, c'est quand même un contrat d'un an, quid après, on ne sait pas trop ce qui se passera pour les gens. Et puis après, évidemment, il ne faut pas avoir été méchant avec l'ordre public, respecter les valeurs, tout ci, tout ça. Donc j'essaie d'aller un peu vite. Oui, alors ça a été dit, parce que ça a fait comme de l'émotion dans les universités, la caution étudiante et tout ça a été supprimée, enfin ce qui était prévu. Hein. Ah oui, puis aussi, j'ai oublié comme dans le travail, c'est qu'il faut relever de métiers en tension. Ce sur quoi les organisations syndicales sont très opposées en disant ça ne veut pas dire grand-chose, sinon à peu près rien. Il ne suffit pas de prouver qu'on travaille, qu'on est utile par son travail, mais être dans la bonne liste. Et les listes, pour le moment, elles datent de 21. La seule chose qui a été changée, c'est que maintenant, merci à ceux qui ont déversé du fumier dans les rues, toutes les professions agricoles seront en tension d'office, puisqu'il y a du dolé qui tourne autour. Pour le reste, on ne sait pas encore. Hein. C'est variable selon les régions. En région Bourgogne, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dans les métiers en tension qui correspond là où travaillent, nous, la plupart des gens qu'on voit. Hein. Donc on verra ce que va être la nouvelle liste. Voilà, là-dessus. Alors, il y a un point sur les jeunes majeurs, qui est d'ailleurs un combat qu'on a mené localement. C'est qu'il y a une loi, c'est une des rares lois progrès social que ces dernières années, la loi Taquet, qui dit que quand des jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans, ils doivent de droit avoir un accompagnement prolongé s'ils n'ont pas de solution. Bon, ce qui est une réponse à ce qu'on se rend compte, c'est qu'un tas de jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance se retrouvent en bonne partie SDF ou en très grave situation sociale. Donc la loi Taquet, qui était de bon sens en disant qu'il faut un accompagnement, et je le dis parce que le conseil départemental de la Côte d'Or ne voulait pas l'appliquer pour les jeunes étrangers. Et on a gagné des procès contre eux. Et d'ailleurs, la réaction de Sauvadet, c'était de dire, bon, je vais pas en cassation contre, je vais perdre, mais j'irai en parler à Madame Borne. Mais il a dit après celle que va Sauvadet. Et ce droit pour les jeunes étrangers vient d'être limité, pour les jeunes qui étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnement, à condition qu'il n'ait pas d'obligation de quitter le territoire. Et comme on sait que beaucoup, même si ensuite arrivent à être régularisés ensuite, ont des obligations de quitter le territoire à 18 ans, en général, c'est parce qu'ils ont des difficultés à trouver leur identité, ça risque de mettre en situation de grande précarité à son de jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, un petit point, si quelqu'un pas qu'un petit, qui veut quand même aussi mettre dans la mouise un certain nombre de gens, c'est l'interdiction d'être entrepreneur sans titre de séjour. Et ça va, alors, on connaît quelques cas de gens dans le bâtiment, mais surtout, beaucoup sur les métiers, alors, qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont une façon de survivre comme on peut, tous les métiers d'auto-entrepreneurs, qui sont, on a tendance, nous et d'autres, à dire que c'est un peu du salariat, il y en a beaucoup du salariat déguisé, mais ça permet de survivre. Pour contourner aujourd'hui, un employeur n'a pas le droit d'envoyer quelqu'un sans titre de séjour, le détournement, les gens se mettent entre entrepreneurs et ça leur permettait de bouffer. Quoi. Ça, maintenant, ce ne sera plus possible d'être auto-entrepreneur, entrepreneur en général, sans titre de séjour. Alors, je vais aller très vite, il y a quand même. Oh, oui, allez, bien. Oui, un peu important, c'est les expulsions et les obligations de quitter le territoire. Alors on en a beaucoup dit, ou on a raconté dans l'opinion publique n'importe quoi sur l'obligation de quitter le territoire. Hein. C'est que j'étais l'autre jour dans un lycée avec une dame congolaise victime de beaucoup de violences dans son pays et qui n'a pas eu l'asile, et qui disait « j'ai eu l'obligation de quitter le territoire ». J'ai été frappé, la réaction du prof dit « mais pourquoi vous n'avez pas commis de délit ?» Ah non, il n'y a pas besoin de commettre un délit pour avoir l'obligation de quitter le territoire, quoique la propagande gouvernementale nous vient asséner que c'était les méchants qui en avaient. Et alors, il y avait sous deux catégories protégées, hein, notamment les gens arrivés jeunes en France qui ne le sont plus contre la possibilité d'OQTF. Voilà. Il y a une organisation administrative de l'asile, une décentralisation. Une chose qui nous inquiète sur l'asile, c'est que l'asile, d'abord, on passe à l'OFPRA. Si on a accepté, on est content. Si on est refusé, en général, on fait recours à la Cour nationale des droits d'asile. Et la Cour nationale du droit d'asile, la règle, même si elle était de plus en plus remise en cause, c'est une justice collégiale avec un représentant du Haut Commissariat aux réfugiés. Ce qui ne fait pas des miracles, mais donner quand même quelques garanties. Maintenant, la règle, c'est avec le juge unique et le collégial avec le commissariat aux réfugiés, l'exception. Et voilà, y aurait plein d'autres choses dans les détails, mais bon, Dominique a plein de choses intéressantes à nous dire. Moi, je dirais simplement, je vais être politique, je veux dire, il faut lire cette action qu'on a contre la migration, en partie perdue, on s'y est opposé et elle est passée, même si ça n'a pas été avec toutes les honneurs du Sénat. Je crois qu'il s'est quand même passé quelque chose d'important, c'est les mobilisations qu'il y a eu contre. Et notamment le 21 janvier, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France depuis très longtemps. 1500 personnes sur les mouvements immigration dans les rues de Dijon. 15 manifestations pour une Franche-Comté, dont des choses à Lourdes, à Cluny, à Pontarlier. Il s'est quand même passé quelque chose, et on pense qu'il y a quelque chose de... Il faut continuer avec tous ceux qui y étaient. Et je crois que la bataille qu'on a menée, c'est vraiment la bataille de l'opinion publique. Il y a, alors de façon très directe, mais je crois que si on veut avancer sur le droit des étrangers, comme je l'ai dit à la fin de la manif du 21 janvier, on était contents, on avait réussi le manif. Maintenant, il ne fallait pas rester entre nous, il faut aller voir d'autres gens, il faut convaincre autour de nous, il faut trouver d'autres moyens de convaincre d'abord. Voilà. Toi,
bon. Et ben, je ne vais pas déjà être un américain après tout ce que vous avez dit. Bon, moi, je suis Dominique Petit, je suis militante de l'association SOS Refoulement. Et on dit aussi bénévole, parce que nous, dans le cadre de l'association, nous fournissons un travail assez chronophage qui a la mission que s'est donnée l'association, mais pas que. C'est l'accompagnement administratif et juridique des personnes qui font l'objet de la loi récente dont Paul nous a expliqué les tenants et les aboutissants. Alors, effectivement, il s'agit de personnes. Il ne s'agit pas que de statistiques, il ne s'agit pas que d'un problème migratoire ou d'une crise migratoire. Nous rencontrons, nous, dans nos locaux et ailleurs, des personnes qui arrive chez nous au terme d'un long voyage, souvent compliqué, et qui très souvent sont en situation de stress lié au traumatisme vécu, que ce soit dans leur pays d'origine qu'elles ont fui, que ce soit les stress liés au voyage. Le voyage peut durer plusieurs années. On a des personnes qui sont parties quelques années, il y a quelques années de leur pays, mais qui sont passées par un tas d'endroits dans lesquels elles ont dû survivre, gagner leur vie. Et arriver ici, ça leur a pris du temps. Et il s'est passé beaucoup de choses. Quelquefois, elles ont traversé la Méditerranée, ça ne s'est pas forcément bien passé. Et c'est aussi l'origine de beaucoup de stress post-traumatique, cette traversée de la Grande Bleue. Et elles arrivent et finalement, elles ont le sentiment d'être arrivées. En fait, elles sont arrivées, mais elles ont encore beaucoup de chemin à faire. Parce que pour atteindre ce qu'elles cherchent, c'est-à-dire un endroit où vivre en sécurité, un endroit où se poser, un endroit où habiter, un endroit où on va avoir le droit de scolariser ses enfants, où on va avoir le droit de se soigner, de soigner ses enfants, eh bien, on va leur demander beaucoup de choses. Si on les rencontre à ce moment-là, ben on va les orienter vers les structures que l'État a mis en place pour accompagner la demande de protection internationale dans le cadre de la Convention de Genève. Alors pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a à faire de plus que ces structures qui sont là pour ça? Eh bien en fait, elles sont là pour ça, mais l'accès à cet accompagnement s'est beaucoup restreint au fil des lois successives, dont par l'école. Il y a eu toutes ces lois restreignent les droits à l'accompagnement et aux besoins les plus basiques que des êtres humains, le droit à l'hébergement, le droit à la possibilité de se nourrir, et bien ces droits sont de plus en plus restreints quand on arrive pour faire une demande d'asile. Pourquoi? Ben parce que déjà, quand on arrive en France, c'est rare qu'on ait pris l'avion avec un visa sur son passeport et qu'on atterrisse à Charles de Gaulle. En général, on a dû traverser beaucoup d'États, et en particulier des États de l'espace Schengen. Et là, il y a une loi, une convention qui a été passée entre les différents États Schengen, à savoir que bah, si vous êtes arrivé, vous avez donné vos empreintes en Italie, par exemple, avant d'arriver en France, et bien allez donc faire votre demande d'asile en Italie. Ah ben oui, mais j'en viens et ça s'est pas bien passé. Et puis d'abord, moi je parle français, je suis francophone, et puis moi c'est en France que j'ai choisi de demander, c'est là que je veux vivre. Ben non, vous allez repartir en Italie. Et donc ces personnes sont placées dans une situation administrative difficile. Et oui, on va essayer de les aider parce que les autorités leur demandent de repartir en Italie. Donc vous pensez bien que les structures mises en place par l'État pour faire l'accompagnement ne vont pas les aider à échapper à cette fatalité de repartir dans ce pays dont elles ont réussi à sortir. Donc, une association comme SOS Refoulement peut effectivement donner des informations, indiquer une stratégie, accompagner ces personnes vers un avocat pour contester cette décision qui les renvoie dans le pays de Dublin d'origine. Ça peut être, c'est un exemple de ce qu'on peut faire dans l'accompagnement administratif et juridique à SOS Refoulement. Si elles échappent ou si elles arrivent à passer cet obstacle-là qui concerne, je dois dire, à peu près une personne sur deux qui arrive pour demander l'asile en France, enfin, par ici. Alors, si elles arrivent à passer cette étape-là, elles peuvent avoir survécu pendant 18 mois sans aucune possibilité. SDF, vécu dans un squat ou dans la rue, se nourrir de restos du corps, ou peut-être des distributions alimentaires, voilà. Lorsqu'elles ont passé cette étape-là, elles vont pouvoir accéder à la demande d'asile, parce que la France va accepter de devenir responsable de cette demande de protection. Mais ces personnes ont sauté, elles n'ont pas obéi. Donc, elles n'ont plus droit à l'accompagnement social. Elles n'ont plus droit aux conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire un hébergement et une allocation. Et donc, quand on va leur demander de raconter leur histoire devant une structure qui s'appelle l'OFPRA, Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, on va leur dire, bah oui, il faut raconter, mais il faut donner des détails, il faut écrire en français. Et puis, c'est pas tout, il faut apporter des preuves de ce qui vous est arrivé. Il faut avoir des éléments probants. C'est-à-dire qu'on rejette sur ces personnes la responsabilité de la preuve de ce qu'elles ont subi. C'est pas évident, parce que souvent ces personnes viennent d'un pays où la structure sociale, où la culture est différente. Parler de soi, raconter ce qu'on a vécu, surtout si on a subi des violences sexuelles en particulier, c'est pas du tout évident. Et elles vont avoir besoin d'aide pour écrire ce récit. Elles auront également besoin d'aide pour se présenter à l'interrogation de l'OFPRA, où on va leur poser des questions, où elles auront un interprète qui n'est pas forcément le traducteur idéal, parce qu'elles vont avoir le sentiment qu'elles ne sont pas entendues, qu'elles ne peuvent pas forcément s'exprimer. Et puis, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Et puis, il y a des choses qui vous paraissent tellement évidentes. Je ne sais pas si vous venez de Kinshasa, par exemple, ce qui se passe là-bas, eux, ils le connaissent par cœur. Donc, ils n'ont pas le sentiment que c'est nécessaire de donner des détails. Ils disent, j'ai eu des problèmes dans mon pays. J'ai eu des problèmes avec la police, j'ai eu des problèmes avec l'ANR, j'ai eu des problèmes avec la milice, la protection de la présidence. Pour eux, ça leur paraît très évident, mais expliquer en quoi consistent ces problèmes, c'est pas si évident que ça. Et il y a un taux de rejet qui est important de la part de l'OFPRA. Le rejet de l'OFPRA est toujours très mal vécu. C'est très mal vécu parce que c'est la négation de ce qu'on a subi. On n'est pas cru, on n'est pas reconnu en tant que victime. Et même si on se situe dans un autre cadre, Dieu sait si ne pas être reconnu en tant que victime des violences et du danger qu'on a vécu, c'est jamais facile. Donc elles vont avoir besoin de faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile, qui évolue toujours mal, comme l'a expliqué Paul à l'instant, c'est une cour de justice. Elles vont être devant un juge. Elles vont donc, là aussi, défendre la réalité de ce qu'elles ont vécu et le besoin de protection qu'elles présentent. Elles vont avoir besoin d'un avocat. Très souvent, les accompagnants sociaux qui travaillent dans les structures comme les CADA, centres d'accueil des demandeurs d'asile, ils ont des principes qui font qu'ils ne souhaitent pas conseiller un avocat aux personnes. Ce n'est pas déontologique pour eux. Et pourtant, s'ils ne le font pas, ils vont faire une demande d'aide juridictionnelle, parce que les demandeurs d'asile ont des revenus tellement bas qu'ils peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Sauf que si on fait une demande sans désigner d'avocat au préalable, on va avoir un avocat qu'on ne connaît pas, qu'on ne va peut-être pas rencontrer avant la convocation à la Cour nationale du droit d'asile. Et souvent, les personnes vont être le sentiment de ne pas avoir été bien défendues par leur avocat. Et effectivement, parmi tous les avocats qui figurent sur la liste du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui ont effectivement des compétences prouvées, qui font partie de réseaux, comme le réseau LNA, qui ont une mentalité militante un petit peu du droit d'asile et qui vont travailler de façon extrêmement sérieuse et qui connaissent bien les problématiques des différents pays. Et puis, c'est pas le cas forcément de tous les avocats qui sont désignés par le BAJ. Donc nous, là aussi, nous intervenons pour essayer d'orienter les personnes vers des avocats que l'on connaît pour faire bien leur travail et avec qui on peut avoir des relations de travail qui permettent aux gens de préparer au mieux leur défense devant la Cour nationale du droit d'asile. Et puis toutes ces démarches, elles sont de plus en plus dématérialisées. La communication avec l'OFPRA, par exemple, Office français de la protection, pour la protection des réfugiés et des apatrides, est dématérialisée, c'est-à-dire que les gens ne reçoivent plus le courrier. La procédure, elle se déroule par mail, et par accès à l'espace personnel sur Internet. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a énormément de personnes qui passent complètement à côté de leur procédure parce que les mails sont français. Elles ne les lisent pas ou elles ne les voient pas passer parce qu'elles n'ont pas cette culture-là. Elles n'ont pas l'habitude de communiquer par mail. Et on s'aperçoit que finalement, elles ont été rejetées par l'OFPRA, elles ne l'ont pas su. Il y a des délais à les respecter. Elles n'ont pas respecté les délais, on s'en aperçoit trop tard. Et c'est les procédures d'asile qui sont complètement... c'est des échecs qui sont liés à la dématérialisation. Bon, pour l'instant, la Cour nationale de droit d'asile n'est pas encore dématérialisée, mais bon, nul doute que ça finira par arriver, puisque maintenant, ça va être un juge unique, et non plus une formation collégiale qui va juger les gens. Voilà pourquoi les associations ont encore du travail, alors que ce sont des démarches qui, théoriquement, sont prises en charge par les structures dédiées. Et puis, à la fin du parcours, il y a une décision qui tombe. Soit elle est positive, et les personnes deviennent bénéficiaires d'une protection internationale, elles sont réfugiées, ça leur ouvre. Alors, la personne qui reçoit le statut de réfugié, elle relève du droit commun canadien. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes droits qu'un Français. Elle a droit au RSA, elle a droit d'accéder à un logement social, elle a le droit de travailler, elle a le droit à la formation, elle a droit. Mais comment faire pour accéder à ces droits si on n'est pas accompagné dans ces démarches-là qui, pour beaucoup, sont dématérialisées, qui sont complexes, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils ont vécu dans leur pays, s'ils n'ont pas cet accompagnement social. Or, je vous ai dit tout à l'heure que l'accompagnement social, beaucoup de demandeurs d'asile n'y avaient pas droit parce qu'ils sont passés par Dublin ou parce qu'ils viennent d'un pays sûr. Eh bien, au niveau des réfugiés, c'est un petit peu la même chose. Parce que s'ils n'étaient pas accompagnés en tant que demandeurs d'asile, ça va être très très difficile pour eux d'accéder à un intervenant social s'ils n'ont pas auparavant eu cet accompagnement en tant que demandeurs d'asile. Et c'est très souvent qu'ils ont donc recours aux associations comme nous pour essayer de les orienter, quelquefois de suppléer, on est vraiment obligé. C'est pas notre mission première, mais bon, quelquefois on est obligé de donner un coup de pouce pour trouver l'accompagnement social qui va leur permettre d'accéder à ces droits. À savoir que les jeunes réfugiés qui ont moins de 25 ans n'ont pas le droit au RSA. Et là, c'est des situations qui sont très compliquées parce qu'ils ne parlent pas encore la langue, ils n'ont pas accès au travail. Et c'est très difficile pour eux de survivre. Il ne faut pas croire que parce qu'on a obtenu un statut de réfugié, la vie devient rose tout à coup. Mais on est bien obligé aussi de faire face à la situation de ceux qui ont été déboutés de leur demande de protection et à qui on va demander de sortir de leur lieu d'hébergement, s'ils en avaient un. Et de ne plus recevoir d'allocation, et c'est des gens qui sont au bord du gouffre quand on leur annonce ça. C'est surtout des familles qui viennent me trouver, qui me disent mon assistante sociale m'a dit que le 30 du mois, je dois quitter le foyer. Mais je ne sais pas du tout où aller. J'ai des enfants qui sont scolarisés. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer d'aller à l'école. Je ne sais pas où on va dormir. Je ne sais pas ce que je vais leur donner à manger. Je ne sais pas comment je vais les soigner, puisque je vais perdre aussi la C2S, complémentaire santé et solidarité. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Alors, ils reçoivent un courrier de l'Office français d'immigration et d'intégration, qui leur dit gentiment... Bon, vous êtes venu demander une protection, mais finalement on s'est rendu compte que vous n'en aviez pas besoin. Et donc, vous n'avez plus le droit de rester en France. Et donc, on vous propose de vous aider à retourner dans votre pays. On peut vous aider, gentiment. Sauf que personne n'envisage le retour. Le voyage qu'ils ont fait, c'est un voyage sans retour. Là d'où ils sont partis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de famille. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maison, il n'y a plus rien. Et ils savent qu'ils sont toujours en danger, que les personnes qui les recherchaient pour leur faire la peau, bah, elles traînent toujours autour des familles. On leur a dit, ah tiens, la police est encore venue te chercher. Donc, il n'est pas question de repartir, on ne repart pas. Et... Ben, je vous dis, je ne cacherai pas que ce n'est pas le moment le plus facile pour nous qui les recevons, parce que nous sommes bien conscients du grand vide devant lequel elles se trouvent, et nous n'avons pas grand-chose à leur dire, à part que ben, faudra appeler le 115. Ah ben oui, mais j'ai déjà appelé le 115. Le 115, oui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place. Ah ben, oui, ben alors, s'il n'y a pas de place au 115, ben, il ne faut pas sortir, vous ne pouvez pas quitter votre foyer. Oui, mais ben, l'assistante sociale, elle m'a dit que si je ne quittais pas le foyer, j'allais avoir des problèmes. La police allait venir, peut-être. Oui, mais non, non, l'assistante sociale ne peut pas décider que la police, pas que la police, enfin, voilà, il y a tout un travail de l'accompagnement social qui est là pour dire aux gens, vous n'avez plus le droit, vous devez partir. Alors que ces gens ne peuvent pas partir, sont coincés, complètement pris dans une contradiction. On leur demande de partir. Éventuellement, ça va même quelquefois jusqu'à des menaces, hein, de dire, là, attention, si vous ne partez pas, vous ne pourrez pas demander de titre de séjour derrière, c'est arrivé. Et la nécessité de survivre pour elle. Hein. Donc, on a aussi un accompagnement à faire dans ces situations-là, d'expliquer la réalité, les lois, de soutenir la demande d'hébergement d'urgence, même si le 115 va dire qu'il n'y a pas de place. Eh bien, s'il n'y a pas de place au 115, eh bien... la police ne peut venir que si le tribunal en a pris la décision. Enfin, on est obligé d'informer ces personnes de leurs droits, même s'ils sont faibles, même s'ils sont très réduits. Elles en ont quand même, elles ont des droits, et on est là pour les informer et essayer de les faire respecter. Même si, en fin de compte, eh bien, on est quand même très très inquiet pour le devenir de ces personnes. Puisque quand on a échoué à sa demande d'asile, il y a les perspectives de régularisation, d'obtenir un titre de séjour par le biais du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, se font de plus en plus complexes et exigeantes, et que très souvent, après des années et des années d'errance, ces personnes n'ont toujours pas pu obtenir une régularisation. Même si elles ont déposé des dossiers en préfecture parce qu'elles remplissaient certains critères, 5 ans de présence en France, des enfants scolarisés, ou alors, comme par le travail, 5 ans de présence en France, j'ai déjà travaillé, même si j'en avais pas le droit, et mon employeur fait une demande d'autorisation, il fait une démarche. Tous ces dossiers sont montés scrupuleusement par les bénévoles de l'association, envoyés à la préfecture. Et puis, ben c'est la tente, c'est le grand silence. La préfecture ne donne pas de nouvelles. Les gens perdurent, finissent par trouver des solutions de survie, par trouver un petit moyen, gagner quelques sous en faisant des ménages chez les particuliers, en travaillant en CESU. Voilà, il y a toute une économie qui se met en place pour essayer de survivre. Mais la régularisation, elle n'est pas pour aujourd'hui, elle n'est pas pour demain. Ah, peut-être qu'elle sera dans 10 ans, parce que si on a passé plus de 10 ans en France, ben, on a le droit de demander. le droit de demander. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà la situation qui est faite aux personnes résidentes étrangères en France que nous voyons. Alors, bon, SOS Refoulement, ce n'est pas que l'accompagnement administratif, juridique, hein, c'est pas que, c'est aussi des ateliers sociolinguistiques, parce qu'il y a une demande énorme, énorme chez les personnes qui arrivent, d'apprendre la langue, et de aussi de trouver du lien social. Et ces ateliers sont très importants pour ça. Il y a un service de domiciliation, parce que quand on vit dans la rue, ou qu'on est hébergé par quelqu'un un soir, et par quelqu'un d'autre un autre soir, et ainsi de suite, et bien si on a besoin de recevoir du courrier, il faut avoir une adresse où le recevoir. On peut rendre ce service-là, avec la collaboration de la Ligue des droits de l'homme. Et voilà, c'est aussi un travail de mobilisation, de sensibilisation de l'opinion, d'interpellation des élus. Il y a énormément de travail pour nos associations. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. C'est en réalité beaucoup plus complexe et compliqué que ça. Mais ça serait très fastidieux.
Monsieur, peut-être madame.
Merci beaucoup pour vos interventions. Puis je suis vraiment touché de trouver, de vous retrouver aujourd'hui. Bah, ce n'était pas prévu que je vienne. Et là, je vous rends compte qu'il y a des gens qui défendent une bonne cause. Et moi, je me permets de juste rebondir sur ce que vous avez dit. Et parce que apparemment, tout le monde est dans le pays. Moi, personnellement, ça fait 4 ans que je suis en France. J'ai fait mes études en master ici. J'étais le majeur de ma promotion. Et voilà, après j'ai voulu changer de statut d'étudiant à un salarié pour gagner ma vie et tout. Il s'est avéré que je ne trouvais pas, tant que je ne trouvais pas un métier qui est dans le cadre de mes études. Or que mes études, moi je suis un musicien. Et c'est un cadre un peu particulier de remplir toutes les conditions possibles pour être musicien pour avoir ma CLC, pour avoir un contrat bien possible. Et du coup, à chaque fois que je voulais entrer en contact avec la préfecture, il n'y avait pas moyen d'envoyer des emails et tout. Et la seule fois où j'avais le droit à parler avec l'interprétant de la préfecture, c'était lors du moment de recevoir mon titre de séjour. Alors là, j'étais en face de la personne responsable et du coup, j'ai demandé gentiment si on a un responsable pour discuter avec, pour savoir s'il y a des situations un peu particulières, on peut discuter, si ça fait un travail un peu particulier comme musicien. Et du coup, là, j'ai eu la réponse de envoyer un mail, monsieur. Enfin, je vais rentrer parce que je préparais toutes mes preuves, puisque je vais là-bas. J'ai envoyé une quinzaine de mails presque et il n'y a pas de réponse. Je me dis oui, mais essayez de renvoyer. J'ai dit oui, monsieur, mais est-ce que là, il n'y a pas un responsable tant que je suis là, c'est juste pour avoir une réponse de oui ou de non, pour savoir dans quelle direction où je peux me diriger, comment je peux faire comme démarche pour changer mon statut et tout. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et du coup, je suis toujours dans l'obligation, dans le stress, comme vous avez mentionné, d'essayer de trouver les bonnes solutions pour maintenir son titre de séjour, on va dire, de renouveler, de parfois partir sur des choses où on n'est pas toujours convaincu de faire, que ce soit en études ou en travail, pour maintenir certaines situations. Et voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Je suis vraiment content que je vous ai retrouvé aujourd'hui, parce que pendant un très bon moment, je me suis cru tout seul dans ces démarches-là, où je ne comprenais pas trop. Et là, franchement, merci beaucoup. Et je vais me diriger vers vous pour en savoir plus, parce que parfois je me sens perdu totalement, et pourtant je gère bien toutes mes choses. Je suis doctorant actuellement et je fais des spectacles partout, j'essaie de véhiculer ma culture musicale, de faire des ateliers pour les petits et tout, et je ne trouve pas de personne en face pour en discuter des projets que je dirige, des projets musicaux avec des Français, avec de toutes nationalités. Et voilà, mais pour expliquer que je suis un artiste ambitieux, je vais faire pas mal de projets en France, des projets qui tournent déjà, qui sont en cours. Est-ce que ces projets-là, est-ce que je peux, à travers, changer mon statut ou avoir quelque chose de carré? Je trouve personne prêt pour en parler. Merci.
Ben, merci du témoignage, parce que c'est exactement la situation de les personnes qu'on rencontre dans le cadre de l'accès au séjour. Là, j'ai plus davantage parlé de la demande de protection, mais toutes les personnes que nous rencontrons dans le cadre de la demande d'une carte de séjour, soit pour des raisons familiales, soit pour études, travail ou santé, sont dans cette situation-là, et en particulier depuis 2020, parce que la préfecture a profité du Covid pour fermer ses portes, fermer ses guichets et interdire à quiconque de pénétrer dans ce bâtiment-là en dehors d'un rendez-vous fixé pour trois raisons précises. Un, vous avez un dossier de renouvellement à remettre. Vous prenez un rendez-vous sur Internet, vous allez porter votre dossier et vous repartez, vous n'avez pas le droit de discuter. Et là, l'occasion suivante, ça sera pour venir changer un récépissé. Là aussi, vous allez devoir prendre un rendez-vous sur Internet. Enfin, c'est même pas vraiment nouveau, c'est faire une démarche extrêmement complexe, enfin, c'est pas possible, quoi. Et vous allez changer votre récépissé, vous allez dire, mais il n'y a pas de droit au travail sur mon récépissé. C'est normal ? Oui, monsieur, c'est normal. Bien sûr, vous aurez le droit au travail quand vous aurez la carte. Au revoir, monsieur Dame. Bon. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous serez appelé à prendre un nouveau rendez-vous sur Internet pour amener l'argent pour récupérer votre carte. Voilà. Ces trois occasions, en dehors de ça, vous n'avez pas le droit, la préfecture, vous n'avez pas le droit d'aller chercher les infos.
Excusez-moi, juste pour rebondir sur le tout dernier détail, juste je voudrais bien partager ça avec vous pour les paiements bien faits. Je vous raconte une petite histoire. Avant de faire mon inscription au doctorat, la préfecture exige qu'il faut faire sa demande 2 mois à l'avance. Or que, comme on sait tout le monde, les inscriptions se passent au mois de septembre. Et on sait tout le monde aussi, si on dépose un dossier manquant, ben, il est déjà refusé. Parfois, tu déposes un dossier qui est complet. Et parfois, ça ne s'aboutira pas. Et du coup, j'étais obligé de payer 275 € pour un retard de dépôt, or que je n'avais même pas d'inscription. Je ne peux pas faire quelque chose qui n'existe même pas. Et du coup, quand j'ai demandé ça aussi le jour même, j'ai dit, monsieur, ça se passe comment ? Il m'a dit, monsieur, vous déposez le dossier, vous déposez le dossier avec un explicatif. Or que on dépose un dossier complet avec la confirmation de l'école doctorale, de ton directeur de recherche, tes ressources et tout, et parfois c'est pas accepté. Et là, ils nous disent, déposez mon camp et après on verra. Juste pour voir la l'histoire pour vous dire, on peut pas déposer avant, si on dépose après, comment ça se passe. Voilà. Et là, on ne discute pas.
Il y avait deux personnes qui voulaient s'exprimer, je crois, là et là. Ah non, vous l'avez écrit que.
Je voulais demander, sans parler des droits en même, j'ai l'impression que l'accès aux droits, c'est vraiment problématique. Enfin, vous travaillez bénévolement, donc ce n'est pas des fonctionnaires d'État qui s'occupent de faire ces pages administratives. Je me demandais un peu comment ils justifiaient ça au gouvernement, enfin, sous quel régime ça passait, de dire qu'en fait, on laisse les gens sans accompagnement. Et bon, j'imagine que l'informatisation a dû empirer cette situation, mais enfin, je me demandais s'il y avait toujours aussi des possibilités de attaquer ou de revendiquer des choses par rapport à ça. Cet accompagnement inexistant et l'impossibilité d'accéder au droit de ces personnes.
Oui.
Peut-être répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je regarde l'heure et je me rends compte que par rapport au petit programme dont on avait prévu, à savoir peut-être passer un moment convivial après, parce qu'on a un repas à proposer aux gens qui vont bien rester pour passer et continuer les discussions, peut-être plus informelles après, mais je me dis, est-ce que 18h30, vous pourrez essayer un peu de conclure et comme ça, on pourra passer un autre temps, on pourra échanger entre nous et puis on va pouvoir proposer un repas et autres après. Voilà.
Ouais, non, mais
Oui, c'est ce que super, malheureusement, on a une autre réunion.
Ah oui, ok, c'est pas grave.
On va pas pouvoir rester pour le repas avec le regret.
Bon, il y en aura un autre demain soir, donc en tout cas, c'est possible.
Je voudrais juste intervenir simplement pour les personnes jeunes qui sont là et qui ne sont pas au courant, notamment aussi, même quand on a une carte, quand on arrive à avoir une carte de séjour, le prix. Payer cette carte alors qu'on n'a pas de ressources, qu'on en a eu très peu. Ça tourne autour des 370 euros pour avoir une carte de séjour. Donc il faut les trouver. Mais on voit aussi, même si on a abouti à quelque chose, les problèmes qui en plus se greffent là-dessus, quand il y a un couple, ça s'adouble. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment, il faut que les gens aient le sachent, quoi. C'est pas gratuit, hein, par M. Marché. Alors qu'on entend des horreurs, hein, de tous les côtés. Ces gens-là, en plus, après un parcours du combattant, ils ont en plus des sommes astronomiques à sortir pour être là pour une carte qu'ils sont d'autres obligés de renouveler même l'année d'après. Hein, ou qu'ils peuvent avoir une carte de 5 ans, enfin voilà. Ça, il faut quand même que les gens le sachent, que ce n'est pas gratuit. Donc, c'est d'autant plus quand même.
Si je peux rebondir sur ce que tu disais, sur l'accompagnement, ce qui est enfin, compliqué, c'est que pour l'État, tant que tu es demandeur d'asile, tu as droit à un accompagnement. Des fois bien fait, des fois moins bien fait. À partir du moment où tu es débouté, où tu es sous OQTF, ils disent que tu n'as qu'un droit, c'est de partir. Bon, il reste quand même deux droits pour les étrangers en France importants quand même. Hein. C'est le droit à la santé qui a été quand même sauvé en sauvant l'aide médicale d'État. Et ce qui est quand même pas rien, c'est du niveau de l'école. L'école est accessible aux enfants, quelle que soit la situation administrative des parents. Mais à part ces deux droits-là, ben, quand tu es sous OQTF ou débouté, il ben, n'y a plus rien. Il n'y a plus que la solidarité.
Surtout si l'hébergement d'urgence est dénié aux personnes qui sont sous OQTF.
Bon, ce qui est un peu compliqué, théoriquement, tout le monde y a accès, mais il y a des critères de priorité. C'est une façon d'exclure des gens.
Oui, ça dépend.
Après, je dirais quand même, bon, il y a un tableau d'or. On arrive, je crois qu'il faut le dire aussi, des gens arrivent, c'est tout un combat, mais quand même, ils arrivent, ce sont des gens à se faire régulariser, c'est tout un combat. Et il y a quand même une solidarité. Alors, aussi par rapport à ce que disait Daniel, par rapport à ces questions de fric, il y a aussi de la solidarité qui existe, hein, puisqu'on a un collectif, ça s'appelle le collectif de soutien de demandeurs d'asile et migrants à Dijon, il y a une quarantaine d'assos, syndicats et un peu d'argent qui est géré par SOS Refoulement. Et on essaye d'aider les gens pour les papiers à faire pour obtenir un titre de séjour, parce qu'aussi avoir un passeport, tout ça, ça coûte cher, on en a besoin. Et aussi pour les timbres, et on a comme une bonne collaboration avec le Secours catholique qui participe. Et il y a quand même tout un réseau de solidarité, puis aussi sur la solidarité sur les qui permet d'obtenir. Alors là aussi, c'est pas miracle, mais c'est aussi quand il y a des mobilisations de solidarité. Il y en a eu pas mal. Alors c'est vrai que ça a un peu retombé depuis le Covid, mais au niveau des écoles, pour obtenir des régularisations de famille. Et ce qui répond, c'est aussi un peu par rapport à ce que disait Jérémy, ce qui était frappant, c'est des mobilisations de parents, bah parce que quand ils n'ont pas décidé spécialement sur l'immigration au départ, mais quand c'est le copain de leur gamin qui vise à être expulsé, qui se bouge. Il y a eu des mobilisations d'employeurs qui ont dit à l'État, bah, vous nous faites suer, moi j'ai trouvé quelqu'un qui bosse bien, je veux le garder. Il y a eu des lycéens, il y a eu une affaire comme l'affaire Guimba à Dijon, un apprenti boulanger qui voulait absolument expulser, qu'on a pu garder. Alors, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on est loin de gagner tout le temps, mais enfin, moi, je pense quand même que la mobilisation de la société civile et tous les réseaux de solidarité, parce qu'il y en a plein qui existent, sont importants. Puis les réseaux de solidarité, on a aussi par exemple, des aides de la ville de Dijon qui partent du principe qu'on ne laisse pas un gamin sans bouffer à la cantine, qu'il y ait de l'argent ou pas, il mange. Il y a des aides solidaires, là je vois notre ami Françoise qui est là, c'est le dernier squat qu'aujourd'hui à Fontaine, qui n'était pas la municipalité la plus ouverte, on va dire ça comme ça. Il s'est créé un collectif de voisins solidaires qui fait tout un boulot d'aide aux gens. Enfin, voilà, c'est-à-dire c'est dur, l'avenir n'est peut-être pas radieux,
Mais il y a plein de choses utiles à faire. Voilà, moi je tiens à le dire. Et que c'est, on peut dire des fois on est déçu parce que ce qu'on obtient c'est bien en dessous de ce qu'on voudrait. Mais s'il n'y avait pas cette mobilisation sous des formes très diverses de la société civile, ce serait bien pire.
Pour répondre à la question sur les possibles des recours juridiques qui existent contre l'absence de conditions matérielles d'accueil, par exemple, oui, on y travaille, puisque on fait des recours, on prend des avocats, on demande les services des avocats pour saisir le tribunal administratif en cas de refus des CMA, conditions matérielles d'accueil, par exemple. Hein. Pour le fait que, bon, jusqu'à une certaine époque, notre travail de bénévole à SOS Recrutement consistait aussi à accompagner les gens physiquement au guichet. Bon, on n'a plus le droit de rentrer à la préfecture. Il est aussi question, enfin, on y réfléchit avec certains avocats, de constituer un dossier, de saisir le tribunal administratif de cette impossibilité-là. Sur la dématérialisation, oui.
C'est pour les cas individuels à chaque fois ou c'est dans une volonté de faire un dossier
Voilà, l'idée c'est ça. C'est de récolter des témoignages sur certains, des témoignages judiciaires, comme quoi, ben, ce jour-là, je voulais être accompagnée au guichet de la préfecture parce que j'avais besoin d'aide pour m'expliquer, mais j'ai pas pu parce que les victimes m'ont interdit la personne accompagnante de rentrer. Mais c'est pas faire sur une seule personne, c'est une saisine du tribunal administratif sur un principe. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport quelquefois aux abus de timbres fiscaux, parce que ça existe, effectivement, il y a aussi des recours juridiques à faire. On le fait rarement parce que, en général, cette carte de séjour, les gens ils l'ont attendue, ils l'ont tellement désiré, ils l'ont tellement attendue. Moi, ils me disent, non, elle est là, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Parce que je dis, non, mais attends, là, tu payes une taxe de régularisation, on me demande 200 euros en plus du prix de ta carte, c'est pas normal. Dans la loi, tu ne vois pas, oh, non, mais laisse tomber, je vais payer. C'est comme les taxes de retard, 180 euros en plus du prix de la carte, parce que au lieu de faire sa demande de mois à l'avant, on l'a fait 6 semaines avant. Et ben vous aurez une taxe de retard de 180 euros. Il y a un tas de des choses sur lesquelles on peut protester, mais que les personnes ne veulent pas. C'est comme les ruptures de droit. Par exemple, vous avez fait votre demande de titre de séjour, on vous a donné un récépissé. Sur ce récépissé, il se trouve que c'est un récépissé qui donne droit au travail. Mais quand vous allez demander par Internet un renouvellement, eh bien, il est bien possible que la préfecture, au lieu de mettre 3 semaines pour vous convoquer pour vous donner un nouveau récépissé, elle attend un mois, 2 mois. Pendant ce temps-là, vous n'êtes plus devant le travail. Vous ne toucherez plus les allocations familiales. Si vous étiez au chômage, vous ne toucherez plus le chômage. Tous les droits sont coupés. Il y a une rupture de droit qui met les familles dans des situations catastrophiques. Tellement catastrophique que, dans le pays, il y avait pas longtemps un article qui racontait l'histoire d'une fille qui avait ses enfants en charge, qui s'est trouvée en rupture de droit pour une histoire comme ça, de renouvellement de récépissé, de retard dans le renouvellement de son titre de séjour, qui a été obligée de ne plus consommer d'électricité. On lui a coupé l'électricité. Elle a acheté un poêle, un chauffage d'appoint bidon, les enfants sont morts asphyxiés. C'est une des conséquences de ce type de rupture de droit. Et ça, les gens le vivent tous les jours. Et alors, les avocats nous disent, mais il faut commencer à faire des recours en préjudice, subi. Sauf que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas, c'est normal. C'est normal, je comprends qu'ils ne veuillent pas se lancer dans des procédures comme ça. Voilà, c'est pas si évident que ça.
Quoi. On a aussi tout un contentieux collectif national, hein, parce que les associations nationalement, par exemple sur la dématérialisation, qui est une catastrophe, pas pour les étrangers d'ailleurs, hein, on a obtenu, alors notamment, c'est une grosse mobilisation en Ile-de-France, mais aussi un contentieux national mené par pas mal d'associations, d'obtenir théoriquement quand même des droits, une possibilité de pas tout passer par la dématérialisation, ou qu'il y ait une aide, mais elle est quand même très faible, à l'accès à l'Internet. Mais c'est aussi usant, mais c'est aussi... On a aussi, je dirais des fois, l'action que mènent les militants. Moitié du temps, on fait de la guérilla juridique pour faire appliquer le droit, et l'autre moitié du temps, on aide les gens à échapper au droit, quand le droit, c'est de les expulser. Mais bon, c'est... Mais ça, c'est aussi quand même que tout un contentieux national juridique qui se mêle. Là aussi, des fois, on gagne, des fois, on perd. Hein.